sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 avril de 18 à 21h, en différé jeudi 4, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir. Voilà, c'est fait. J'ai oublié de mettre mon casque, parce que ça va voler bas.
Il va tomber des hallebardes.
Voilà, des hallebardes. Allez-vous bien ?
Très bien.
Bien, moi aussi. Merci de me l'avoir demandé. Autour de cette table, à tout seigneur, tout honneur, le docteur François Plantet. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Ah, l'objet
qui est là, c'est un micro.
Bonsoir, chers amis. Quel honneur.
Parlez au micro. Bonjour, micro.
Bonjour, monsieur micro.
Henri de Fersan. Bonsoir, Henri. Et Jean Fouquet. Bonsoir, monsieur Fouquet.
Bonsoir.
Alors, Jean Fouquet, vous ne le connaissez pas, mais vous allez apprendre à le connaître. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle Jihad. J'ai découvert que par une espèce de jeu de mots franco-anglais, ça pourrait presque vouloir dire j'ai la haine, j'ai la haine. Hein? Parce que hate, enfin bon, bref, voilà, je me suis compris, c'est l'essentiel. Paru aux éditions Rémi Perrin. Et on va parler de son livre, qui est un petit livre, un livre court, qui fait 125 pages, 126 pages, mais qui est quand même assez bien envoyé. Même très très bien envoyé. Voilà, c'est un coup de gueule. Un coup de gueule contre la délinquance, la criminalité, qu'on appelle maintenant l'insécurité.
Les incivilités, quand on veut faire politiquement correct.
Les incivilités, comme dit Fersan, qui s'y connaît en political correctness. En deuxième partie, nous recevrons qui donc déjà, j'ai déjà perdu ma liste. Non, je vous le dis pour que vous puissiez quitter tout de suite l'écoute si vous avez peur de vous ennuyer. J'aurai donc le docteur Mera qui viendra parler de la prochaine, du prochain symposium sur le Saint-Suaire de Turin, le linceul de Turin. Docteur Mera représente le CIELT. Et puis nous aurons par téléphone le docteur Dor et le docteur Villette pour évoquer les questions de la défense de la vie. Voilà. Et puis à la fin, Guy Le Hideux parlera de bande dessinée, je crois, avec Alain Sanders. Je suis pas sûr parce que Guy ne m'a pas confié le secret de cette partie d'émission. Voilà, en première partie, j'attends, dans quelques minutes, nous aurons un invité au téléphone. Et puis voilà. Alors, l'actualité. L'actualité. Moi, j'étais très frappé par la réaction de M. Jospin à propos de la flambée d'anti... On ne dit pas antisémitisme parce qu'il y a...
Si, ils le disent quand même.
Ah non, mais oui, mais c'est une erreur parce que, ainsi que l'a fait remarquer un correspondant de RMC Info, quand vous n'écoutez pas d'ailleurs Radio Courtoisie, moi je peux vous donner qu'un conseil, écoutez RMC Info parce que il donne la parole à peu près à tout le monde. Alors, et donc il y a un gars qui a téléphoné à RMC Info en disant je commence à en avoir marre qu'on parle d'antisémitisme parce que quand on attaque les synagogues, parce que moi je suis un sémite aussi, je suis un arabe, et quand on attaque un arabe dans la rue, personne ne parle jamais d'antisémitisme. Je trouvais que c'était assez rigolo.
Le terme approprié serait plutôt soit antisionisme, soit anti-judaïsme.
Enfin, de toute façon on n'a pas le droit. Que ce soit anti... N'importe quoi, c'est interdit. Il ne faut pas être anti, il faut être pour. Et comme on ne peut pas être anti-palestinien non plus, il faut être pro-palestinien, pro-sioniste. Après, vous vous arrangez comme vous voulez, mais il faut vous arranger pour être pro. Parce que si vous
ça coûte faire scission avec soi-même, ça.
Si vous êtes anti, vous avez des gros ennuis. Alors, en tout cas, Jospin a donc expliqué que contre les attaques de cet ordre et les incendies de synagogues, qui sont des lieux de culte d'après, d'après Chirac.
Les synagogues ?
Oui, sont des lieux de culte.
Bien sûr que non.
Mais évidemment pas, ce sont des écoles ou des maisons de discussion.
Il y a plus de culte depuis la chute du temple
voilà,
à Jérusalem.
Depuis, ça fait donc maintenant.
La perte des généalogies des sacrificateurs.
Ça fait 1930 ans qu'il n'y a plus de culte. Chirac devrait se tenir informé d'une actualité qui n'est quand même pas brûlante.
C'est pas très frais.
Pas très frais. En tout cas. Ça ne sont pas des, les synagogues ne sont pas des lieux de culte, mais c'est quand même des endroits où certains croient devoir mettre le feu. Alors, Jospin a dit que c'était absolument terrible, que c'était inexpiable, impardonnable, inacceptable, intolérable, et ça ne sera pas toléré, selon la vieille...
Et si ça continue, il faudra que ça cesse.
Il faudra que ça cesse, voilà. Et ils terroriseront le terroriste, comme dit l'handicapé du parrainage.
Voilà.
Et alors, il a dit, on va frapper très fort.
Oula.
Et alors, je me suis dit, comme ça, mais c'est donc qu'il croit à l'exemplarité de la peine.
Probablement.
S'il est prêt à punir gravement les auteurs de crimes anti, ce que vous voudrez, c'est qu'il croit que ça sert à quelque chose. Donc, ça veut dire que si on punit, alors on va employer le mot antisémite parce qu'autrement on s'en sortira jamais. Si on commet un crime antisémite et qu'on est sévèrement puni pour ça, c'est pour dissuader les autres de recommencer et pour empêcher celui qui est puni de recommencer. Et pourquoi ça marcherait pas pour le reste? Pourquoi on ne foutrait pas sévèrement en prison le type qui casse une voiture, le type qui fout le feu à un autobus, le type qui tague un mur? Parce que ça pourrait aussi l'empêcher de recommencer, le dissuader. Non, non, apparemment, ça ne marche que dans un cas, c'est à propos de l'antisémitisme.
Voilà, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. Alors, il y a une deuxième chose, c'est la question de l'égalité des victimes. Parce que il y a à peu près par jour, je suppose en France, je sais pas, Jean Fouquet, vous avez fait un bouquin là-dessus, vous devez avoir une idée, combien il y a d'agressions en France par jour? Il y en a 4 millions par an, si un rapide calcul doit nous conduire.
J'ai pas de chiffres, non officiels, non.
Disons que grosso modo, on peut dire qu'il y a une agression violente en Île-de-France toutes les 2 heures. Donc il suffit donc ça.
Ça, on a un peu d'avoir 2 heures de tranquillité quand même, c'est bien.
En Île-de-France toutes les 2 heures.
Oui. Enfin, ça c'était des chiffres il y a quelques années. Alors, ça a dû s'améliorer depuis.
Ouais. Mais... Alors donc. On n'en parle jamais de ça. Toutes les 2 heures, ça veut dire qu'il y a 12 par jour agressions violentes.
Dans l'Île-de-France.
Des agressions pas violentes, il y en a à peu près 100.
Bon, ça, c'est parfois plus.
Voilà. Ça dépend ce qu'on appelle la violence, d'ailleurs. Mais bon, admettons qu'il y ait, mettons, une centaine d'agressions par jour en France. On n'en parle jamais, très peu en tout cas. En revanche, là, il y a un jeune couple, parce que le monsieur portait une kippa, qui a été agressé. On n'a parlé que de ça pendant 2 jours.
C'est ça.
Donc, il y a des victimes qui sont apparemment plus victimes que les autres. C'est assez clair. Et il y a des crimes qui sont plus punissables que les autres et des peines qui sont plus exemplaires dans certains cas que dans d'autres. C'est tout à fait intéressant. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit à propos de la synagogue de Marseille. Et c'est évidemment justifié. Un établissement public qui brûle, c'est inadmissible. Mais il y a quelques mois, sauf erreur de ma part, il y a une église qui a été brûlée par un jeune arabe à Limoges,
l'église Sainte-Bernadette
de Limoges, et on n'en a pas parlé du tout, du tout, du tout. Mmh. Si le libre journal présent, Mondévi, Rivarol, peut-être National Hebdo, n'avait pas publié l'information, elle passait complètement sous silence. Et que je sache, dans ce cas-là, le jeune arabe, quand il a été arrêté, il a expliqué qu'il était en colère, il a pété les plombs.
J'avais la haine.
J'avais la haine parce qu'un des flics, il m'avait contrôlé. Alors on lui a dit, bah oui, mais enfin quand même, d'ici à mettre le feu à l'église, vous comprenez, bon, bien sûr, ce ne sont que des catholiques, mais enfin quand même, hein. Alors n'y revenez pas, hein. Bon, ou alors la prochaine fois, vous ne faites pas prendre. Il est en liberté, ce garçon. C'est quand même extraordinaire. Vous brûlez une église, il n'y a pas un écho dans la presse, et vous êtes remis en liberté. Mais Jospin vous dit, si jamais vous foutez le feu à une synagogue, alors là, vous avez intérêt à numéroter vos
abattis. C'est fascinant.
Je me demande
Comme facturait Orwell, tous les hommes sont égaux. Certains sont plus égaux que d'autres.
Voilà.
Et d'autres ne sont pas égaux du tout.
Alors, en tout cas, je souligne simplement cet aspect de la question, parce que ça interpelle quelque part, comme dirait Jospin. Et moi, je voudrais qu'il m'explique pourquoi... La peine, les sanctions deviennent exemplaires dans certains cas, dissuasives dans certains cas et pas dans d'autres. pourquoi certains criminels sont à frapper avec une violence terrible et pas les autres, pourquoi on met en prison devant le tribunal international de La Haye monsieur Milosevic et pourquoi monsieur Sharon a le droit de faire ce qu'il fait. Tout ça c'est des questions. Moi je suis pas, attendez, je suis tout à fait une intelligence moyenne. Si on m'explique lentement, je suis capable de comprendre, mais je voudrais qu'on prenne au moins la peine de m'expliquer, parce que pour l'instant j'écoute la radio et je comprends pas quand même, même quand je lis les journaux. Je comprends pas. Donc si on voulait bien m'expliquer, clairement, pas avec un bâton, hein, on peut m'expliquer avec des mots. Voilà, je serais content. Je crois qu'on a notre correspondant, notre interlocuteur au téléphone. Allô ?
Allô.
Bonjour Monsieur le Président, comment allez-vous ?
Merci, bien.
Alors, je vous téléphone, vous êtes à Nice ?
Je suis à Nice, à quelques, enfin, 2 heures de mon meeting, là.
Bien, alors je pense que les auditeurs ont reconnu Jean-Marie Le Pen. qui est à Nice pour un meeting. Et je voulais vous poser 2 ou 3 questions, parce que je sais que vous êtes assez pressé.
Non, je vous en prie.
Ah, ben c'est gentil, alors. Donc, je voulais vous interroger sur les dépôts de candidats, de parrainage.
Oui.
Vous avez déposé les candidats, décidément, je veux dire les candidatures, les parrainages hier.
C'est ça.
Et alors, il y a déjà une imprécision sur le nombre. Le nombre exact est de combien ? Parce qu'on a dit 503.
Oui.
Et puis là, j'ai un autre nombre qui
oui,
est donné.
Absolument. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, comme nous avions procédé à une mobilisation générale de tous nos militants et sympathisants, etc., il était important tout de même d'être sûr d'avoir passé la barre des 500. Nous avons donc déposé ce que nous avions à l'heure où je suis allé au Conseil constitutionnel. Il y en avait 503. Et puis, entre, je crois que c'est 17h et 22h, je crois, où Mme Le Hideux a été portée, ce qui est arrivé pendant ce temps-là, il y en avait une trentaine de plus, je crois.
Est-ce qu'il y a eu des... Vous avez eu des gens qui vous avaient promis des signatures, des maires qui vous avaient promis des signatures, qui ont repris leur parole par la suite.
Ça a été l'affreuse embuscade, ça.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus à récipissant, en quelque sorte ?
Oui, alors voilà. Vous savez, à 15 jours du délai de forclusion, nous apprenons qu'il y a 150 maires de ceux qui ont signé un engagement très clair, très solennel de consentir leur parrainage. Eh bien, on se dit, mais c'est terrible, 150, on ne va pas y arriver. Alors, bien sûr, on a appelé ces gens-là, et très curieusement, on s'est heurté à des réactions beaucoup plus raides, beaucoup plus sévères, beaucoup pas hostiles, je dirais, mais enfin, que les gens qu'on rencontrait, les maires qu'on rencontrait comme ça par hasard. Autrement dit, je pense qu'il y a eu soit une taupe chez nous, soit les systèmes de surveillance téléphonique sont tels maintenant... qu'on a connu la liste de ces gens-là et qu'il a été exercé sur eux des pressions très très nettes. Alors bien sûr, nous avons remonté le courant. Je pense qu'on en a retrouvé environ 50 sur ces 150. On a réussi à convaincre les gens de respecter leurs paroles. Et puis, il y en a une centaine qui se sont révélés être totalement imperméables à la demande que nous leur faisions de respecter leur signature, et il a fallu les remplacer par d'autres. Alors on est reparti, comme cela, en quelque sorte, à la course, à l'échalote, comme on dit, sur les routes de France. Alors nous avons établi, c'est notre ami Karl Lang qui a monté ça très très bien et très très vite, un pool de phoning, n'est-ce pas, d'environ, je sais pas, il y avait 60 personnes, chacune ayant un département, qui appelait systématiquement toutes les communes, les unes après les autres, et dès qu'il y avait ce qu'on a appelé une touche,
oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui ne répondait pas de façon évasive, ou qui disait, je dis pas non, est-ce que vous accepteriez
de
recevoir quelqu'un? Oui, tac, alors hop, immédiatement, on téléphonait dans le département en question, et on l'envoyait. Et quelquefois, alors, on m'appelait personnellement en disant, écoutez, président, il y a quelqu'un là qui est peut-être quelqu'un qui est sur le point de succomber à votre charme, voilà, prenez-le au téléphone. Et il m'est arrivé de faire de très beaux coups, quelquefois, de subir des échecs. J'ai subi un échec avec une adhérente du Front National,
oh.
qui est maire, elle m'a dit non, je ne peux pas, vous comprenez, ma commune, je vais perdre mes subventions et ceci et cela.
Elle a été prévenue par le préfet qu'elle serait privée de ses
subventions. Non, c'est pas comme ça. C'est plus subtil que ça. À mon avis, ça n'est pas du tout passé par les préfets. C'est passé par la pyramide qui descend du Sénat, si vous voulez, hein. Le Sénat, les conseils généraux, les conseils régionaux, etc. Les intercommunalités qui aujourd'hui jouent un rôle de suggestion terrible des maires sous la domination d'un grand conseiller général ou des choses comme ça. Mais on s'est aperçu, il y a une étude très, très pointue qui a été faite sur les zones d'influence RPR. Et on s'est aperçu que les grands-ducs RPR, dans leur région, avaient pratiquement obtenu un véritable assèchement du réservoir de signatures.
Vous avez dit pendant à plusieurs reprises au cours de la collecte des parrainages, et quand vous avez appris qu'il y avait autant d'effections, que vous envisagiez de publier la liste des défecteurs. Est-ce que vous maintenez cette intention?
Comment? Oui, tout à fait. J'ai écrit une lettre. Alors ça a donné lieu d'ailleurs à une manipulation de nos adversaires inconnus, car tout ça se fait toujours de façon anonyme. J'ai écrit une lettre aux gens qui m'avaient donné leur parole et j'ai dit voilà, il y a deux choses. D'une part, si vous ne respectez pas votre parole, je ferai diffuser dans votre commune le fac-similé de votre engagement avec mon commentaire personnel. 1, 2. Comme j'ai fait cette recueil de pré-signatures dans le but de savoir si je pouvais engager les dépenses que j'ai engagées pour la campagne, comme j'ai engagé déjà 45 millions de dépenses, je vous appellerai en garantie, en vertu de notre code civil. Et par conséquent, tenez-vous-le pour dit. Alors, il y a des gens qui ont photocopié cela et qui les ont routés sur tous les maires de France. Ce qui fait que le maire qui recevait ça, ne voyant pas qu'en haut il y avait, que c'était une photocopie et qu'il y avait pour information, nous téléphonait pour nous engueuler en disant comment, mais je vous ai jamais rien promis, vous me menacez, etc. Mais non, monsieur le maire, regardez bien. Ah bon, j'ai pas eu peur. Et on en a comme ça décroché 2 ou 3 maires qui étaient furieux et qui nous ont donné leur signature pour protester contre la manipulation.
Oui, ça c'est. Vous avez une idée de l'origine? C'est toujours.
Oh ben, tout ça vient quand même du générateur RPR. Oui. Pas Chirac n'a pas caché. Il avait dit il y a 6 mois que n'importe comment Le Pen n'aurait pas ses 500 signatures. C'était beaucoup moins bien sûr un pronostic qu'un mot d'ordre. Et il est certain que tous ceux qui auraient pu s'opposer à cette espèce de grève des maires, c'est-à-dire le président de la République, le président du Sénat, le président du Conseil constitutionnel ou le président de l'association des maires, et ben ces 4 autres personnalités étaient toutes RPR. Donc visiblement, il y a eu une stratégie RPR pour essayer d'écarter Le Pen de la compétition. Et bien, elle a échoué. Et maintenant, à nous deux, Jaco.
Quand vous dites à nous deux, Jaco, c'est une préfiguration du second tour?
Oui, absolument. C'est ce que je crois, à moins qu'il n'y soit pas.
Oui, non, mais c'est pour ça que je vous posais la question, parce que là, je trouve que vous lui accordez beaucoup de choses.
Oui, mais justement, non, je dis ça, c'est un mot, en quelque sorte. Oui.
Justement, alors, quels sont les grands axes de votre campagne?
Écoutez,
au premier tour?
Je suis désolé d'être obligé d'interrompre notre communication, parce que j'ai un rendez-vous avec FR3 Nice, auquel je dois absolument assister pour le début du journal, mais peut-être aurons-nous une autre occasion.
Ah ben, je pense qu'on aura certainement d'ici les élections, la chance de se revoir.
J'ai été heureux d'avoir une liaison avec vous.
Eh bien, merci Jean-Marie Le Pen. À bientôt. Voilà, j'avais bien compris qu'il était pressé, mais comme il m'avait dit qu'il avait un peu de temps, j'étais prêt à poursuivre cet entretien. Est-ce qu'il m'aurait permis de lui poser des questions de certains auditeurs? Mais on fera ça dans une prochaine émission. Alors, on va appeler maintenant un autre interlocuteur pour poser le même genre de questions. Je suis un petit peu pris de court parce qu'il a mis un terme rapidement à cet entretien qui était prévu pour un quart d'heure. Et ça a duré peut-être un peu plus de 5 minutes. Donc, ça me déséquilibre un peu, je dois le dire. Là, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on aurait un peu plus de temps. Donc, est-ce qu'on a notre autre interlocuteur? Pas encore. Jean Fouquet Je me tourne vers vous, puisque on va vous interroger. Ne soyez pas terrorisé. Il a l'air complètement terrorisé, alors que quand
je suis pas terrorisé du tout.
Quand on lit son livre, on voit que c'est quand même pas. C'est pas quelqu'un qui a peur. En tout cas, la plume à la main, vous vous défendez très bien, je dois dire.
Oui.
Vous avez une formation d'écrivain ?
Du tout. Non, je suis technicien du bâtiment. J'ai un BTS en génie civil, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec l'écriture.
C'est donc une expérience personnelle qui vous a conduit à vider votre sac, en quelque sorte, dans ce livre. Comment ça s'est passé ?
Bon, alors, je vais réitérer ce que j'avais dit le 6 février à Monsieur Gérard Marin, c'est-à-dire que le 10 février, je me rends à Bordeaux pour chercher une voiture en réparation dans un garage. Bref, mon autre voiture tombe en panne, retour au garage, et je suis obligé de faire monter le petit mécano qui a 32 ans, qui travaille dans ce garage, qui me dit bonjour depuis plus d'un an, et qui arbore un visage de fête foraine. Je prends ça pour un accident de voiture. Ce monsieur monte dans mon véhicule, ma femme est à l'arrière, mon fils de 7 ans également, et nous avons à l'époque pris la décision de partir nous installer à l'étranger. Pour les raisons évoquées dans le livre d'ailleurs. J'ai un fils de 7 ans, je ne veux pas qu'il soit confronté à la violence qui me dépasse de plus en plus. Mais bref, tant qu'on n'a pas dans son véhicule à quelques centimètres de soi une victime encore en vie, encore un peu en vie, on réalise pas tout à fait la dureté des choses. On discute avec ce monsieur et ce monsieur m'apprend qu'il a été victime donc d'une agression un samedi après-midi à Floirac, banlieue tranquille de Bordeaux. Il est 15h30, il a restauré une Renault 5 appartenant à sa tante, valeur vénale 1000 francs, il se fait aborder par un sauvageon. Donc j'appelle encore ça un sauvageon, hein. Pour moi c'est un criminel, mais je ne sais pas si ce mot est aujourd'hui politiquement correct. Donc appelons un sauvageon, s'approche de la voiture et entaille, ouvre le bras d'Eric, donc, jusqu'à l'os, du coude, jusqu'au poignet. Eric,
avec
un cutter à moquette, oui, bien sûr, jusqu'à l'os, hein, carrément. Enfin, 3 ans après, j'ai à côté de moi un médecin qui n'en reviendrait pas de voir dans quel état on l'a arrangé. Hein. Pourtant,
il faut une fixation sur les cutters, décidément.
Non, mais ça, c'est vraiment, ça s'est passé exactement comme ça. Non, mais moi-même, si vous voulez, si on m'avait raconté l'anecdote, je n'y aurais pas cru. Et ce bras est lacéré de multitudes d'autres cicatrices. Et là, on m'apprend que c'est d'autres sauvageons qui lui ont sauté dessus avec un couteau étoile et qui l'ont lacéré. Bon, laissé
mais pourquoi sans motif? Il était
à l'arrêt un feu rouge pour lui voler sa Renault 5. Je lui dis valeur vénale 1000 francs. Mais quand bien même la voiture aurait coûté 200 000 francs, 300 000 francs, c'était pas. Voilà, c'est la démarche. Enfin bon, donc ce Eric me raconte cette anecdote. Et par ailleurs, au mois de septembre, mon fils David, âgé de 25 ans aujourd'hui, s'est retrouvé avec un pistolet sur la tempe, à genoux devant ma fille et devant sa fiancée, avec un pistolet sur la tempe, les mains sur la tête, dans l'obligation de demander pardon à Allah pour avoir refusé un paquet de cigarettes à des sauvageons. Là, on est 5 mois avant. Ça faisait trop pour moi. Et il a fallu que le 11 au matin, je me mette en tête d'écrire ce livre, qui a été censuré de 60 pages, je le précise. Mais c'est une censure qui n'est pas due à mon éditeur du tout. Hein. C'est pas de sa faute. C'est qu'on n'avait pas le choix. C'était ça où le livre n'avait aucune chance d'être vendu. Mais il faut quand même savoir que dans ce livre, et mon éditeur pourra le confirmer, je faisais un parallèle entre la délinquance. Je fais un parallèle entre la délinquance et l'islam. Et là, j'hésite pas à faire le lien, parce que j'ai lu le Coran et beaucoup de choses me sont apparues à la lecture du Coran. Et j'avais dans ce bouquin, dans les 60 pages restantes, évoqué les possibilités d'attentats pratiquement tels qui se sont passés le 11 septembre. Et mon éditeur m'a dit, Monsieur Fouquet, restons hexagonal. C'est presque dommage, il l'a reconnu lui-même.
Il l'a reconnu lui-même.
Il est là, l'éditeur.
Il est là, non, l'éditeur mais est là et je le vois contrit.
C'est exact. Hein. Ouais. Bon, donc, à quelque chose près, si ce n'est que moi, mes avions n'atterrissaient pas sur le World Trade Center, mais tout simplement sur des centrales françaises. Enfin bref, et ça me donnait... Bon, parce que j'avais envisagé l'écriture de 18 juin 2020 à l'appel, qui est un roman de fiction. Et donc, j'amenais un peu ce roman de fiction dans ce bouquin. Mais enfin, donc voilà. Et voilà les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre.
Alors, le livre que vous écrivez, c'est pas du tout un roman de fiction. Alors, c'est pas du tout un livre de fiction. C'est une espèce de pamphlet, on peut dire, d'un coup de gueule.
Oui.
D'un Français moyen.
Oui.
Qui en a absolument ras-le-bol. Et quand je dis le bol, je suis très très bien élevé. Oui. Oui. Est-ce que vous, politiquement, vous étiez engagé d'une manière quelconque?
Alors, politiquement, je reste, je suis assez ferme là-dessus, je reste totalement apolitique. Je n'ai plus confiance, c'est vrai que j'ai très peu confiance en l'humanité en règle générale, et plus particulièrement dans les hommes politiques, quels qu'ils soient. Mais j'étais à gauche, j'étais très orienté à gauche, j'ai fait partie des jeunesses communistes étant jeune. Lors d'un voyage en Allemagne de l'Est en 76, je me suis dit que si le paradis communiste c'était ça, je préférais mourir dans la dictature giscardienne. Du reste, c'est ce que je l'évoque dans le livre. Mais je suis passé donc socialiste et j'ai voté. Donc je me suis écorché le cœur avec ma petite rose à chanter l'International au meeting de Tonton, de qui je ne savais strictement rien. J'y retrouvais tous mes anciens profs. Il faut quand même, là j'ai commencé, c'est seulement maintenant que je me rends compte du bourrage de crâne dont j'étais victime pendant toutes ces années. Et en 83 arrive le Rambo Warrior. On nous explique que la mort d'un communiste portugais, c'est pas grave en soi, alors que ces types se sont fait élire grâce au programme commun et aux voix communistes. Et nous prônent donc l'Europe, et là ça a été une rupture totale avec la gauche.
C'est le Rambo Warrior qui vous a fait disjoncter.
Exactement. Et alors ensuite,
parce que ça ne correspondait pas à l'image que vous faisiez de la gauche.
Du tout.
Attendez, je brutalisez un peu, mais vous étiez naïf, pour rester poli, ou...
Pas naïf.
Vous aviez quel âge au moment de Rainbow Warrior?
Je suis dans 55, donc 83, j'avais 28 ans. J'ai, à une époque de mon existence, j'ai voulu être curé. Je devais avoir 11-12 ans.
Vous auriez fait un beau curé irlandais, hein. Tout à fait, on dirait un personnage de curé irlandais, physiquement.
C'est gentil.
Un personnage de curé irlandais dans un film américain.
J'aime beaucoup l'Irlande en plus. Ouais. Mais je voulais être curé j'ai été, comme tout le monde, attiré par les petites filles vers l'âge de 15 ans et ça m'a un petit peu détaché du bon Dieu, je dois bien le reconnaître.
Ah oui, à 15 ans ça va, les petites filles.
Ouais, voilà.
Plus tard, vaut mieux éviter. Mais 15 ans, ça va encore le temps.
Voilà. Les petites filles de mon âge, j'entends. Enfin donc, j'ai eu une rupture là. Et est-ce que ensuite je me suis donc orienté vers la gauche parce qu'il me semblait que c'était que la gauche défendait mieux les quelques valeurs, humaines. Hein, ou l'humanisme, je ne sais pas.
Je ne sais pas, vous appelez ça comme vous voulez.
Oui, moi, voilà. Et voilà, c'est un peu l'image que j'en avais. Et il y avait aussi cet engagement politique qui était un peu en réaction avec mon milieu familial, qui était plutôt très orienté à droite.
Ah oui, vous aviez quand même des bonnes bases, quoi.
Et j'avais, oui, ça, je ne suis pas tellement sûr que ça ait été des bonnes bases, parce que j'ai baigné. Alors, excusez-moi d'être tout à fait honnête. Hein. J'ai baigné dans l'antisémitisme primaire. C'est quelque chose qui m'a profondément.
Moi, je n'ai pas une spécialité de la droite, ça, je vous le signale. Hein.
Non, si mais moi, je l'ai pris, imaginez, dans la tête d'un jeune très malléable. Ouais. Et puis, vous avez eu aussi le travail de sable de l'éducation nationale, ça, il ne faut pas le nier. C'est à 47 ans que je m'en rends compte.
Alors, je vous fais une proposition, Jean Fouquet. Enfin, je vous demande une chose, pas une proposition, c'est de... On va interrompre cette conversation pendant quelques minutes, parce que, décidément, pour ce soir, pour un homme de gauche, ça va être pénible, parce que vous venez d'entendre Le Pen, maintenant vous allez entendre Maigret. Mais enfin, je
pense... Ex-homme de gauche.
Oui, d'accord, c'est donc ça sera plus facile.
C'est pareil.
Et puis, on reprendra cette conversation, qui est d'autant plus intéressante que vous n'êtes pas acquis d'avance. Allô, Bruno Maigret?
Oui.
Oui, bonsoir Bruno, comment
bonsoir,
allez-vous?
Bonsoir Serge Beketch, très bien et vous?
Ça va, je vous remercie. Alors je viens vers vous pour vous demander de faire le point sur la remise des signatures. Ça y est, le geste est accompli.
Bah écoutez, pour moi c'est fait. Hier au Conseil constitutionnel, 425 signatures validées, je suis candidat.
Alors, on a beaucoup dit que... on a beaucoup dit. Le Canard enchaîné a écrit que vous deviez une partie de ses signatures à la bienveillance de Monsieur Bédier, sénateur, je sais pas quoi, RPR.
RPR.
Qui aurait fait envoyer au Conseil constitutionnel 100 signatures de, oui. de parrains.
Oui, c'est en effet.
Vous avez de la chance. Oui.
C'est en effet ce que le Conseil constitutionnel a. C'est en effet ce que le canard enchaîné a dit à propos du Conseil constitutionnel et de nos signatures. C'est évidemment totalement faux et c'est tellement évident à prouver que nous n'avons reçu que moins de 10 signatures directement au Conseil constitutionnel et encore c'était de la part de maires que nous avions nous-mêmes sollicité.
Donc si on en croit le canard enchaîné, Bédier aurait obtenu de 100 personnes, de 100 maires que vous soyez parrainés directement auprès du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel n'a même pas reçu 10 parrainages.
Voilà.
Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire que le canard enchaîné dit n'importe quoi,
oui, c'est exactement
que
ça.
Bédier n'est pas obéi, ou que la poste en France est vraiment mal foutue, parce que
voilà.
Une perte de courrier de 90%, même moi qui suis un gros usager de la poste, et qui vois pas mal de trucs disparaître à la poste, ça j'ai jamais vu. 90% de courrier, ça fait beaucoup.
Les statistiques officielles, c'est 0,4% de courrier disparu.
Voilà.
Donc là, on est quand même très très au-dessus de la moyenne. Bon, ces bêtises étant écartées.
Oui, j'ajoute que toutes ces rumeurs qui sont colportées par certains pour laisser croire que nous n'aurions pas pu collecter ces signatures par nous-mêmes sont particulièrement odieuses d'abord à l'égard de nos militants,
mais surtout pour les militants qui sont
déployé des efforts absolument gigantesques, hein, car c'est vrai que ça n'a pas été simple. Et puis c'est aussi particulièrement insultant pour les maires qui sont des gens responsables, indépendants, autonomes, qui ne donnent pas leur signature sur ordre et qui la donnent dans leur âme et conscience au regard de l'idée qu'ils se font des candidats et de ce que doit être l'élection.
Cela dit, à partir de cette expérience, je crois que, je ne sais pas si c'est vous ou Jean-Yves Le Gallou, aviez, si j'ai bien compris, trouver que finalement cette solution des parrainages n'était pas si mauvaise que ça. Est-ce que c'est bien ce que vous pensez toujours ?
Bon, écoutez, moi, si on commence à parler de ce qui ne va pas dans la démocratie française, faut quand même pas s'arrêter simplement au parrainage. Hein.
Non,
moi,
c'est la démocratie
ça qui me paraît un petit peu scandaleux, parce que au bout du compte, on s'aperçoit que le système des parrainages, même si c'est vrai, il est extrêmement pesant, pénalisant, coûteux en temps, en énergie, il a quand même pas si mal fonctionné. En tout cas, il a pas empêché cette élection d'être dotée de plus de 16 candidats. Par conséquent, il a quand même fonctionné. Et si on parle des problèmes de la démocratie, on peut parler de celui-là, en effet, qui n'est sans doute pas le meilleur, mais faut aussi parler des sondages et de la manipulation qu'elle permet, manipulation des électeurs tout à fait outrancière et particulièrement odieuse, puisqu'on minore les uns, on majore les autres, on n'interroge plus les gens en fonction de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils pèsent dans la boîte des sondeurs. Faut aussi s'interroger sur l'inégalité des temps d'accès aux médias. Vous savez que j'ai eu pendant cette pré-campagne moins de temps de parole que M. Laroutourou, autant que M. Dieudonné. Alors, il y a problème...
Bala. Que le temps de prononcer son nom,
absolument.
Il gagne déjà du temps d'antenne sur vous. Alors,
voilà.
Vous voyez,
si on doit parler des dysfonctionnements de la démocratie, je crois que le sujet est extrêmement vaste, et en effet, il y aurait lieu de l'ouvrir. Mais ce qui met le plus en cause le fonctionnement de la démocratie, ce sont les sondages et les médias. Et je dois dire tout de même qu'il est intéressant de constater qu'alors que tout le monde disait que nous ne pourrions pas avoir nos parrainages, eh bien les maires ont montré qu'ils n'obéissaient pas aux ordres des instituts de sondage et des médias, et ça c'est particulièrement encourageant, et je les salue pour cela, et je les remercie pour cela.
En ce qui concerne les instituts de sondage, c'est pas le débat de ce soir, mais ça m'intéresserait quand même que vous en disiez un mot. Est-ce que vous avez une idée, vous de l'effet sondage, parce que en fait je crois qu'on n'a jamais pu démontrer quelle était la conséquence d'un sondage. Est-ce que le fait d'avoir un bon sondage est mobilisateur ou démobilisateur, et l'inverse, est-ce que l'effet d'un mauvais sondage mobilise ou démobilise l'électorat? Personne n'a jamais pu répondre à ça.
Oui, parce que si vous voulez, je peux vous dire quand même par expérience que c'est pas agréable d'avoir de mauvais sondages.
Hein. Ben, oui, si on y attache de l'importance. Voilà.
Ben non, c'est pas agréable d'abord parce que ensuite les médias vous disent monsieur, on vous donne pas la parole parce que vous ne pesez pas suffisamment. Et puis vous avez quand même des électeurs qui se disent bah alors à quoi ça sert s'il fait pas plus, etc. Je crois que ça n'est pas par hasard que le système prévoit deux tours. Parce qu'il faut qu'en effet qu'au premier tour, on puisse voter pour ses idées sans se préoccuper d'autre chose, tout en sachant qu'au deuxième tour, eh bien, on peut à ce moment-là éliminer celui dont on ne veut à aucun prix.
Mais il y a quand même un paradoxe énorme dans l'attitude des Français qui nous disent, enfin qui disent, les politiciens mentent, les journalistes mentent, les sondeurs mentent, et qui tiennent compte de tous ces mensonges. Moi, si j'étais convaincu que tout le monde me ment, je dirais, bon, ben, je m'en fous du sondage, ça n'a strictement aucune importance. Or, les gens, effectivement, prennent connaissance des sondages tout en disant qu'ils sont mensongers et truqués, ce qui est une évidence, d'ailleurs.
Mais
donc, c'est incohérent, tout ça.
On s'achemine, en effet, vers des réactions saines de la part de nos compatriotes, aussi bien par rapport aux médias que par rapport aux sondages. Chacun considérant qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup de précautions, que ça n'est pas la vérité, un peu comme dans les pays totalitaires, sous l'Union soviétique, personne ne prenait en compte ce qui était dit dans la Pravda. Mais ça n'est qu'un phénomène qui n'est encore pas totalement achevé. Et par conséquent, beaucoup de gens ne croient pas, certains croient quand même, ou se laissent quand même impressionner ou influencer malgré eux.
Donc, est-ce que vous tenez compte de ça dans les axes de votre campagne à venir ? Est-ce que vous allez essayer d'insister sur certains aspects du programme qui sont plus sensibles en ce moment ? Je veux dire, bon, pour prendre un exemple clair, tout le monde a à la bouche que l'insécurité. Est-ce que vous allez en parler particulièrement ? En revanche, strictement personne ne parle de l'enseignement, ce qui est d'ailleurs incroyable, parce que parmi les candidats, il y a trois anciens ministres de l'enseignement public, hein, Jospin, Chevènement et Bérou. Il est candidat, Bérou, il a eu ses signatures.
Ouais.
Donc il y a trois ministres. J'ai pas entendu un mot sur l'enseignement. Est-ce que vous allez faire, en quelque sorte, profiter des créneaux inoccupés ou plutôt vous orienter sur les sujets...
Je parle de ce qui me paraît le plus important. Et quand on ne peut pas parler de tout, on est obligé de faire des choix, d'établir des hiérarchies. Et moins on a de médias, moins on a d'ouverture, grand public, plus il faut resserrer son discours sur l'essentiel. Donc mon discours, mon message, mon axe de campagne, c'est la nécessité de remettre de l'ordre dans notre pays, ce qui passe bien sûr par le rétablissement de la sécurité publique, hein, une politique de tolérance zéro pour les criminels et les délinquants, ce qui passe par la priorité aux familles, avec, vous avez raison, nécessité de réformer le système éducatif, ce qui passe par le reflux de cette mauvaise immigration qui met en cause notre sécurité, notre identité, notre cohésion nationale et qui prend maintenant l'allure d'une espèce d'islamisation et donc d'une forme de colonisation à rebours. C'est aussi la baisse des charges, des taxes et des impôts, car on est complètement asphyxié par un étatisme de plus en plus pesant. Et puis, c'est une nouvelle politique sociale parce que l'assistanat généralisé voulu par les socialistes coûte très cher mais n'a pas empêché la montée de la précarité et de la misère. Et je crois qu'il faut maintenant qu'il y ait une nouvelle politique pour que les Français puissent vivre dignement des fruits de leur travail, qu'on relève les bas salaires, qu'on garantisse les retraites. Il y a énormément de choses à faire.
Quelles sont les grandes dates de votre campagne ? On en reparlera pendant la campagne. J'espère que vous pourrez revenir nous voir dans le studio. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous avez des...
Oui, bien sûr. D'ores et déjà, nous avons un rendez-vous très important au Beau-de-Provence samedi prochain. Rendez-vous à 11h au Beau-de-Provence dans les Bouches-du-Rhône, un haut lieu de la culture française. Et dimanche 7...
Ça, on va encore dire que c'est le mouvement national royaliste.
Voilà. Et le dimanche 7 à Saint-Émilion, également à 11h, j'aurai également un grand meeting à Paris le 16 avril, à 20h, salle Wagram.
Très bien. Bruno Maigret, merci.
Merci à vous.
J'espère que vous pourrez revenir dans cette émission avant le premier tour. Une dernière question. Je vous demande de faire un effort d'imagination et de vous mettre dans l'hypothèse où vous ne seriez pas présent au second tour. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous direz ?
Bah, écoutez, c'est vrai que je ne suis pas totalement sûr d'être au deuxième tour. Donc, si je n'y suis pas, je serai donc amené à donner des consignes de vote. Hein. Je prendrai mes responsabilités. Je crois qu'un homme politique doit s'engager en toutes circonstances. Mais vous en conviendrez, c'est pas encore le moment d'en parler. Hein. Déjà, on vient de franchir une étape décisive, être présent. Maintenant, je passe à l'étape suivante, faire un score important entre 5 et 15% au premier tour de l'élection présidentielle du 21 avril prochain.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir,
à vous. Bruno
Maigret.
Au revoir.
Mais oui, bien sûr, la réponse était convenue, mais la question aussi était convenue. Mais comment voulez-vous ne pas poser ce genre de questions? C'est obligatoire, autrement, on n'est pas un journaliste sérieux.
Moi, je ne sais pas qui ce sera au deuxième tour, alors.
Comment vous ne savez pas qui ce sera? Mais vous n'écoutez pas la radio ou la télévision, alors.
Mais moi, je ne les crois pas.
Oh, bah alors voilà.
Je pense que les gens vont devenir raisonnables.
Si vous ne croyez pas la radio,
et qui vont,
de toute façon, le deuxième tour, c'est évident.
C'est Le
Pen contre Maigret.
Ouais, voilà. Là, c'est un gros problème. Là, c'est un gros problème. Je vais m'arranger avec ma femme, elle va voter pour un, je vais voter pour l'autre. Mais enfin, quand même, ça serait délicat. Non, je préférerais que ça soit. Le rêve, ça serait quand même l'aiguiller, puis un des deux. Là. Au moins, je crois.
Le Pen, l'autre jour, a dit qu'il souhaitait que le deuxième tour soit Le Pen-Chevènement. Je l'ai entendu de mes oreilles.
Alors ça, bon, je suis désolé de le dire en son absence, mais je ne savais pas que Jean-Marie Le Pen était aussi adepte de la facilité, parce que c'est quoi, hein, mener une campagne contre un mort-vivant, c'est pas très chic, je trouve, franchement. Bref, voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Mais dans tout mon film d'horreur qui se respecte, si Serge, vous avez vu autant de films d'horreur que votre fils, vous sauriez que les morts-vivants sont très durs à abattre. Ça prend au moins 2 heures de film.
C'est moins dur pour le réalisateur que pour le spectateur. Là. Bien. Alors, il y avait des questions, mais non. Enfin, il y avait des questions pour Jean-Marie Le Pen et pour Bruno Maigret, mais on peut pas les poser là, parce que de toute façon, ils sont plus là pour répondre. Donc, quand ils viendront...
Bon, je peux vous lire à propos de la sécurité, enfin de l'insécurité. Un auditeur nous téléphone pour nous dire « J'ai été agressé le 23 juin à l'entrée de mon immeuble dans le 14e arrondissement. Tabassé, avec un couteau sous la gorge et enfoncement du larynx. À la police, on m'a traité de pédé, d'abord, puis après, on m'a tout de même accepté d'enregistrer ma plainte parce que j'ai beaucoup insisté. »
Mais l'auditeur doit savoir que depuis mars 2001, c'est le qualificatif susnommé est un compliment.
Pourquoi ils sont... Parlez dans le micro, s'il vous plaît, monsieur.
Pourquoi est-ce que les Français apprennent pas à se défendre? On voit que des gens qui prennent des raclées, s'ils faisaient autre chose que du bridge et du golf.
Tout le monde ne peut pas passer 8 heures par jour à faire du karaté, docteur.
Un peu moins, mais quand même, il semble qu'il y ait une disproportion incroyable entre les jeunes gens des banlieues et ceux du quartier, par exemple.
Non, mais vous les avez vus, les jeunes gens des banlieues?
Oui.
Les jeunes gens des banlieues, ils agressent les vieilles dames de préférence.
Oui, bon, c'est sûr. Allez,
puis il n'y a pas que des gens de banlieue, il y a aussi des gens des cités intramuros.
Que pensez-vous de la candidature de M. Miguet qui a eu ses 500 signatures?
Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis très 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 content que M. Miguet ait déposé ses 500 signatures. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, je suis un démocrate tiède. On peut dire ça, on peut. Bon. Tout ce qui concourt à discréditer, à ridiculiser la démocratie, me réjouit au-delà de toute expression. Et là, je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux. Hein. Pour vous montrer ce que c'est que la démocratie, vous voyez, c'est un système où...
Même Miguet
peut être candidat à la présidence de la République. Ce qui me plairait encore plus, c'est qu'il soit élu. Parce que alors là, c'est le roi dans 15 jours. Hein, c'est la dernière solution. C'est ça ou alors un suicide collectif. Donc,
la question que je me pose quand même, il a eu ses 500 signatures, mais sur quel routage?
Je sais, c'est peut-être...
Pas sur l'autre en tout cas.
En tout cas, c'est pas avec le fichier du Libre Journal, ça c'est sûr. Bien.
Un auditeur qui descend...
Non, cela dit, je réponds sérieusement, il les a pas les 500 signatures. Je suis certain qu'il ne les a pas.
Donc il a déposé
Il a cru. Il a cru, lui, de toute bonne foi. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde qu'il soit pas de bonne foi, Miguel. C'est pas possible. Donc de toute bonne foi, il a déposé. Mais il a été, à l'insu de son plein gré, il a été... Et je pense que jeudi, à l'insu de son plein gré, il va apprendre qu'il n'est pas candidat. Ce dont il se contrefout probablement, parce que il n'est pas du tout prêt à faire campagne. Quel gars que ça serait... Je l'imagine quand même. C'est pas du français que vous me causez.
Ce serait la peine. Serait grandiose quand même.
Et alors, je crois réellement qu'il les a pas. Je le regrette. Parce qu'encore une fois, on rate une belle occasion de démontrer la complète inanité du système démocratique français. Simplement, on va lui dire que non, c'est pas les concierges des mairies qui devaient signer, c'était le maire. Voilà.
C'est le monsieur qui a une écharpe tricolore, là.
Oui.
Un auditeur qui descend directement de Mars, qui nous dit « Quel est le nombre de signatures requis par le Conseil constitutionnel pour être candidat à la présidence non, monsieur, de la République ?»
Je suis désolé, je ne réponds pas à ce genre de questions.
C'est 6,5567, etc.
Non, c'est pas sérieux ce genre de questions. Bon, je vous réponds quand même, mais essayez de rester quelques instants avec nous. 500.
Pour expliquer les signatures, Monsieur Le Pen et Monsieur Maigret peuvent réécouter vers 18h45 sur RTL la rediffusion de Laurent Gérard.
Ouais, c'est malin,
Il est au téléphone et il appelle différents maires avec des voix diverses.
Oui, mais c'est malin d'envoyer les auditeurs sur une radio concurrente.
Bravo.
C'est une radio concurrente RTL. Toute la pub qui passe sur RTL, elle passe pas sur
Courtoisie.
Nous la refusons. Nous sommes libres. Bravo à Monsieur de Becquet. Je l'interrogeais à la fois Monsieur Le Pen et Monsieur Maigret. Quel dommage que ces deux-là ne fassent plus route ensemble. Nostalgie.
De toute façon, ils ne pouvaient pas se présenter tous les deux.
Ils ne seraient pas présentés tous les deux. Ça aurait été l'honneur au plus. Comment vous avez dit tout à l'heure, se rebiffer, une dame bien sûr qui dit ça, se rebiffer quand on est agressé, que faire lorsqu'ils sont armés et qu'on a seulement nos poings et nos pieds, et encore les petits pieds et les petits poings des dames, pour nous défendre.
Écoutez, moi je vous réponds, que je réponds toujours, mais je sais pas, mais on est dans un pays où deux, trois fois par an, le 8 mai, le 11 novembre, généralement le 14 juillet, on nous bassine avec l'esprit de résistance, le courage des Français qui ont su chasser les vilains nazis, la France entière était résistante. Face à ça, il y a certains qui disent ça, les autres disent non, la France entière était collaborationniste. On ne sait pas trop ce qu'était la France entière, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les Allemands n'y sont plus. Et alors, on arrive donc à virer les Allemands qui avaient des fusils, des mitrailleuses, des canons, des avions et tout, et on n'est pas foutu de vider des cités de banlieue où, pour l'instant, sauf sous réserve d'inventaire, comme on dit, ils n'ont pas encore de chars et d'avions.
Ils ont des bazookas quand même.
Enfin, un bazooka, ça tire qu'un coup. Hein. Donc après on peut s'occuper du gars. Non, franchement, il faut ou alors on est un peuple de lopettes, ou alors il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas ce que c'est, ça, c'est un mystère. Mais c'est vrai que on peut s'interroger aussi sur le fait que quand une victime se présente au commissariat, au lieu de mobiliser le banc à l'arrière-banc du commissariat pour choper le gars qui l'a passé à tabac, on commence par dire à la victime t'es un PD.
Mais justement, voilà. Au sujet de la curieuse pratique de la médiatisation des faits, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Vite. Donc les auditeurs sont probablement été au courant parce que l'affaire a été très médiatisée. C'est l'histoire de ces deux gamines qui ont torturé une fille de leur âge. Et c'est très curieux parce qu'il y a eu des affaires beaucoup plus graves que ça qui se sont passées à Marseille en 1995 et à Hayange en 1997. Et dans ces cas-là, la médiatisation s'est résumée à trois lignes dans les rares journaux qui en ont parlé. Et bizarrement, j'attirerais le fait, les auditeurs sur ce fait suivant. Dans ce cas-là, les victimes et les bourreaux, donc à Saint-Vite, victimes et bourreaux étaient du même, oserais-je prononcer le mot tabou, groupe ethnique, alors qu'à Marseille et à Hayange, la victime était d'un groupe ethnique donné et les agresseuses d'un autre groupe ethnique. Je laisse les auditeurs en tirer la conclusion qu'ils veulent.
Rien compris.
Fin de citation.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un groupe ethnique. Je vois pas, ça n'existe pas.
Comme disait le Christ dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 21, si ma mémoire est bonne, que ceux qui ont des oreilles entendent.
Voilà. Bon, bah, écoutez, apparemment, j'ai pas d'oreilles.
Pour terminer avec la sécurité, vous oubliez qu'il est défendu de se défendre. Imaginez, Serge, je suis agressé. Je suis une faible femme, mais un moment de colère féroce me prend et bon, j'envoie un grand coup de poing dans le nez, et un grand coup de genou ailleurs.
Et mon agresseur,
poum, tombe par terre. Eh bien, je vais en prison. Ouais. Ce serait triste quand même.
Victoria, vous n'avez pas besoin de vous défendre. Il suffit de dire à votre agresseur, attention, je suis une ancienne institutrice et il s'enfuit en courant.
Bien, voilà, toutes ces bêtises étant dites, on va revenir à des choses sérieuses. Alors, Jean Fouquet, j'ai hâte, le titre de votre livre, d'édition Rémi Perrin, Donc on en était à votre parcours de jeunesse. Vous êtes un militant de gauche, puisque vous nous avez dit que vous aviez été aux jeunesses communistes. Vous êtes...
En cachette de mes parents, d'ailleurs.
Oui, bah, si votre parent était de droite, effectivement, il valait mieux pas leur annoncer la couleur tout de suite. Moi, je sais que chez moi, ça aurait provoqué quelques mouvements divers. C'est bon. Bref. Et au moment du Rainbow Warrior, vous avez une première illumination. Vous vous apercevez que vous êtes peut-être fait arnaquer depuis 25 ans. Enfin, en tout cas, depuis au moins 10 ans, quoi. Depuis que vous avez pris conscience.
C'est l'argument servi par Ernu à l'époque, qui consiste à dire bon, qu'un bateau explose ne me pose pas a priori beaucoup de problèmes. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est quand un homme saute avec. Et on nous dit oui, c'est un homme. Enfin bon, ça n'est qu'un Portugais communiste.
Les deux étaient gênants.
Le plus gênant, c'est que ce soit un homme, déjà, tout simplement. Ensuite, que ce soit un Portugais, oui, parce que je les aime bien. J'aime bien ces gens. Je l'explique dans mon livre pour un tas de raisons. Mais bon, j'en aime bien d'autres aussi, d'autres pays, d'autres nationalités. Mais ça me paraissait tout à fait inadmissible de dire qu'il n'était pas grave que ce soit un communiste dans la mesure où il s'était fait élire quand même grâce aux voix communistes, qui n'étaient pas de 5% à l'époque. Hein. N'oublions pas que c'était de l'ordre de 25% quand même. Donc voilà, ça a été ma rupture. Mais en espérant toutefois,
mais au
si
fond,
je peux
vous
me
avez,
permettre...
Oui, vous avez rompu avec le parti social, enfin avec la gauche socialiste, oui. mais pour des raisons encore plus à gauche.
Non, parce que c'était pour des raisons de logique ou de d'authenticité, comment dit-on, d'honnêteté politique. Je ne pouvais pas faire confiance à des gens qui me balançaient deux ans après s'être fait élire grâce aux voix communistes. C'est pas grave puisque ce type est communiste. Donc c'était je me plaçais d'un point de vue éthique entre guillemets. Et c'est ça qui m'a fait ne plus avoir confiance en ces gens-là. Mais j'avais pas davantage confiance dans les gens de droite, je tiens quand même à le préciser.
Oui, j'entends bien. Ce qui m'intéresse dans votre parcours, c'est justement cet aspect. C'est-à-dire, vous n'êtes pas un homme de gauche qui est devenu un homme de droite ou d'extrême droite. Vous êtes un homme de gauche qui, petit à petit, pas lentement comme ça, pas progressivement, mais par étapes successives, va découvrir que la vie n'est peut-être pas très exactement ce que lui raconte Libération, le Nouvel Observateur, les hommes politiques de gauche, le SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme et autres organisations destinées à faire comprendre aux gens que quand même ils vivent dans un paradis terrestre qui s'appelle la France socialiste.
J'ai beaucoup plus appris depuis que j'ai écrit mon livre. De 83 à février 2001, je faisais quand même partie des aveugles. Des aveugles, des sourds, des...
Mais justement, aveugles et sourds par volonté, c'est-à-dire... Enfin, on voit bien que vous n'êtes pas... D'abord, quand on lit votre livre, on voit que c'est un livre écrit par quelqu'un d'intelligent.
Merci.
C'est pas un compliment, parce que l'intelligence, c'est comme la capacité de courir à pied, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Mais on voit, vous écrivez d'une façon, intelligente, intéressante, vive, il y a un du style, il y a quelque chose, il y a une âme là-dedans. Donc, cette âme, elle s'est pas révélée en l'an 2000, il y avait quelque chose, ça existait déjà. Votre lucidité, elle était déjà présente. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à la façon dont vous vous êtes imposé, en quelque sorte, silence, alors que vous voyiez bien qu'il y avait de l'arnaque ?
Je ne me suis pas imposé silence. Je faisais partie. Je ne me suis pas imposé silence. Je ne suis pas quelqu'un à qui on impose le silence et qui s'impose le silence. Simplement, je faisais partie de ces gens privilégiés, entre guillemets, non que je l'ai été par des moyens financiers. Je l'ai été parce que je ne vivais pas dans les endroits où se passaient toutes les choses dont on parlait un peu. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on en parle avec énormément de force. Que depuis peu.
Dans les journaux que vous lisez, les radios que vous écoutez, les télévisions que vous regardez.
Exact. Bon. C'est exact.
Mais si je peux vous dire, moi j'étais directeur de Minute, j'étais directeur de National Hebdo. Depuis 72, j'ai été condamné, je ne sais pas, 30 fois pour infraction à la loi Pleven, parce que je disais tout simplement que l'agresseur était ce qu'il était.
C'est
ça, c'était... Alors, naturellement, c'est quand même extraordinaire. Voilà, je suis content que vous soyez venu, ne serait-ce que pour dire ça. C'est-à-dire que ça veut dire que vous représentez... Vous êtes un homme qui est lucide, qui est intelligent, qui a un cerveau, qui est capable de s'en servir, et qui est tenu à l'écart de l'information, Et au moment où l'information lui éclate à la gueule, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Eh bien, là, il dit, non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas du tout, cette histoire-là.
C'est exact.
Donc, il y a des millions de Français qui sont dans votre cas.
C'est exact. Je m'en rends, mais là où, je ne voudrais pas vous interrompre, mais là où je m'en rends vraiment compte, c'est depuis la sortie de ce livre. Bon, il y a eu une omerta complète. On ne veut pas parler de ce bouquin. Heureusement que Radio Courtoisie existe. Il faut citer les noms, il faut arrêter tout le tour du pouvoir. J'ai eu le 6 janvier le secrétariat d'Yves Calvi au téléphone qui me dit nous vous préparons un plateau assez dans l'air dès qu'une émission aborde le problème épineux de la délinquance. J'en ai compté entre le 6 janvier et le 6 février, j'en ai compté 7. Directement lié à ce problème, il y a les autres dont on qui évoquaient quand même également ce problème-là, mais c'était le sujet principal. À chaque fois, Monsieur Aziz Saïri, éducateur à Grenoble de Sauvageon, était invité sur les plateaux. Moi, je n'ai jamais été invité. Voilà.
Or, il faut quand même dire que parmi les journalistes des radios périphériques, Calvi est probablement un des plus honnêtes.
Absolument.
Hein, probablement, avec les gens de RMC Info qui font un très bon travail aussi, je trouve. Moi, en tant qu'auditeur, je suis toujours intéressé par leurs émissions. Calvi fait une excellente émission. Très souvent, les sujets sont intéressants. Donc, je suppose que c'est pas lui qui exerce la moindre censure, mais il faut croire qu'il y a un système.
Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas été invité. Ah. Je n'ai pas été invité là. Je n'ai pas été invité aux autres émissions auxquelles on avait un espoir qu'on puisse un peu parler un peu de ce bouquin. Pour revenir à RMC, j'ai écouté RMC il y a deux jours. Et j'y ai appris quand même quelque chose d'intéressant parce que il y aura une suite à ce bouquin. Je regrette pas, ce bouquin m'a ruiné totalement, mais je regrette pas de l'avoir fait, parce qu'on le ressortira dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il sera encore un peu plus d'actualité. La suite de ce bouquin sera Pingouin Blues, le titre n'est pas encore arrêté. C'est pas très riche en vocabulaire peut-être, mais là c'est ma rencontre avec le résistant de 2002. Des résistants, monsieur, qui font partie des rangs, je m'excuse, hein, du Front National et du mouvement de monsieur Maigret. Ces gens ont peut-être une attitude sincère lorsqu'ils se rendent dans l'urne. Mais lorsqu'il s'agit de résister, c'est plus du tout la même chose. On a la résistance clandestine. On n'ose pas. On l'imminute. Vous voulez que je parle français, franchouillard?
Oui, bien sûr.
On l'imminute dans les chiottes, avec Playboy. On n'ose même pas lire Minute, on n'ose même pas aller l'acheter, monsieur. Je les ai rencontrés, ces résistants-là. Je viens de les rencontrer, je suis écœuré. Alors, on va revenir à l'émission d'RMC. Il y a deux jours, RMC a lancé un grand sondage, vous devez être au courant, les 20 propositions à faire aux hommes politiques. Eh bien, écoutez, quelles sont les 5 premières propositions, vous allez comprendre à qui on s'adresse. 1, les retraites dans le public. 2, les retraites dans le privé. Voilà. Hein, d'accord? Oui. C'est bien. Bon. 3, que des centres fermés soient créés pour les délinquants de moins de 16 ans. Moi, je dis très bien. Je note que ça n'arrive qu'en troisième position. 4, que les parents des délinquants soient tenus responsables financièrement des dégâts causés par leur rejeton. Je note que ça n'arrive qu'en quatrième proposition. Mais là, vous allez tomber à la renverse. Ce qu'est la cinquième priorité du français moyen aujourd'hui, c'est la dépénalisation du cannabis.
Oui. Voilà. J'y crois pas.
Si, écoutez, c'est ce qui a été dit il y a deux jours.
Oui, non, je sais bien, je l'ai entendu comme moi. Oui. Mais je n'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. Parce que ce genre de sujet, ce genre de consultation n'est pas fait pour donner la parole aux citoyens. Il est fait pour utiliser la masse citoyenne, comme ils disent, comme couverture à des opérations de manipulation de l'opinion publique. Et naturellement, on glisse la dépénalisation du cannabis là-dedans, qui intervient juste au moment où Jospin vient de dire que finalement c'était moins grave de fumer un joint que de boire un verre de vin, alors qu'il y a deux affaires criminelles en ce moment qui défraient la chronique et qui sont des affaires liées directement à la consommation du cannabis. Personne ne le dit, mais le présumé, pour l'instant, le présumé tueur des Hollandais de Doche, au moment des fêtes, il fumait 60 grammes de hash par jour, c'est-à-dire 60 cigarettes de hash par jour. C'est hallucinant. Là, il était défoncé du matin au soir, du soir au matin. Et le tueur de Nanterre, il était littéralement déchiré en permanence. Ce sont, vous savez d'où vient le mot assassin ?
De hashish.
Ça vient de hashish, hashishine. Les assassins sont les fumeurs de hashish. Le hashish est un produit qui, je peux lire le texte que je publie dans le Libre Journal, qui est un avis de médecin, qui explique que le THC, produit psychotrope et principal actif du hashish, modifie la perception, lève les inhibitions des consommateurs, révélant au grand jour leurs pulsions enfouies. Ainsi, sous l'empire d'une forte consommation de hash, un agressif peut devenir un fou criminel, un amoureux risque de sombrer dans la frénésie érotique, un paresseux se transforme en loque grabataire. Voilà. Donc c'est une espèce de c'est un produit qui accélère multiplie et aggrave les comportements déviants. C'est quand même extraordinaire qu'au moment où éclatent ces deux affaires, le Premier ministre ose dire que c'est moins grave de fumer une cigarette de hache que de boire un verre de vin. Normalement, il y aurait dû avoir des manifestations dans toutes les banlieues, dans toutes les provinces viticoles. Enfin, un truc comme ça, c'est criminel de dire ça, oui, pour plusieurs raisons. La deuxième chose, pourquoi il y a cette opération ? Pourquoi il y a cette opération de dépénalisation du hash ? Ce que les Français ne veulent pas comprendre, c'est que tout s'explique tout le temps si on veut bien travailler. Il y a au Libre Journal un collaborateur qui passe son temps à ça, qui s'appelle Michel Blanza. Il passe son temps à travailler sur les dossiers, à travailler sur ce qui se passe dans le monde. Il y a un homme au monde qui a décidé que le hashish serait dépénalisé et vendu en paquet dans les boutiques d'une façon normale, parce que pour lui, ça représente des milliards et des milliards, étant donné qu'il s'est acquis la quasi-totalité des terres de production du cannabis, c'est Monsieur Soros. Monsieur Soros, c'est un homme qui, en France, a des contacts personnels, intimes, avec quelqu'un qui s'appelle Monsieur Kouchner, qui est secrétaire d'État à la santé publique. Ouais, et qui est un homme qui se prononce en faveur de la dépénalisation du hash. Donc là, on est en situation d'un programme qui a été mis au point dans des officines où on prépare ce genre de truc. On a dit, il faut faire passer la légalisation du hash, et on va y arriver par des méthodes classiques, c'est-à-dire c'est toujours ce qu'ils ont fait, et c'est toujours la même chose. Par exemple, pour l'avortement, vous avez eu il y a quelques semaines un magazine qui est sorti, dont j'ai oublié le titre, et peu importe, un torche-cul qui est sorti avec à la une les signatures, les 300 ou 400 personnes de la bonne société, qui disent « moi j'ai fumé du hash ». C'est exactement le processus de l'avortement avec le manifeste des 343 salopes. On s'est fait avorter, inculpez-nous. La justice se fout à plat ventre. Elle inculpe naturellement personne, parce que c'est pas possible d'inculper 40 comédiennes, 25 journalistes, 12 femmes politiques, etc., etc. Donc, et des avocates, Madame Halimi et compagnie. Là, on s'écrase. Sur le H, ils sont en train de faire la même chose. Et les Français croient que tout ça, c'est purement né. C'est parce que la gauche, comme ça, elle a l'idée intellectuellement qu'après tout, pourquoi on fumerait pas son petit joint de temps en temps ? C'est pas ça. Derrière, il y a du fric. Derrière, il y a la puissance énorme de M. Soros. Voilà.
Mais vous ne me retirerez quand même pas de l'idée que dans ce sondage, parmi les préoccupations principales du français moyen, vient la dépénalisation
du... Non, ils l'ont inventé.
Moi, je reste persuadé que oui, parce que, écoutez, bon, vous êtes journaliste, vous fréquentez, vous avez des amis, etc. Bon, moi, je fréquente les bistrots de Cambrousse. Je picole trop, mais oui, je fréquente les bistrots de Cambrousse. Les endroits peut-être où, je m'excuse, mais des médecins ne vont pas. Hein, je parle au français moyen, moi.
Il ne va pas au bistrot.
Non, mais attendez, je ne parle pas. Je ne parle pas que des bistrots. Non, je parle. Non, ça peut être. Bon, j'en parle dans mon bouquin. Je dis que je suis un type de la base, moi. Je suis pas bon. Je leur parle au français moyen. Je leur ai parlé dans le train en venant vous voir. Ils me tiennent les mêmes propos que ceux que je vous rapporte. C'est-à-dire, leur préoccupation n'est pas. Je vais vous en apporter la preuve.
Vous me dites qu'il y a des Français moyens qui vous disent « je voudrais la dépénalisation du hash ».
Bien sûr. Surtout dans des tranches qui vont on va dire de 15-16 à 35-40 ans pour ceux qui veulent faire jeune.
Ça, c'est le fruit de la propagande.
Non. Et je vais vous en donner la preuve. C'est que ça se reflétera dans les votes.
On verra ça.
Malheureusement. Je le déplore. Hein. Mais c'est comme ça. Et ça, vous...
Dans mon expérience, très important. Je crois que effectivement, il y a un lavage de cerveau colossal dans ces tranches d'âge, parce que ce sont devenus des golems. C'est-à-dire que avec les moyens, ces gens ne pensent plus par eux-mêmes. Hein, c'est clair, avec les enfants, c'est terrifiant.
Hein, terme golem,
c'est quelque chose qui, je dois dire, mais c'est ce qui m'effraie le plus quand je soigne, j'ai à soigner des gens, c'est m'occuper d'adolescents de 13 à 20 ans. En fait, on voit bien qu'on leur a formaté leur disquette. Ils ont des propos qui leur ont été infusés, et il suffit d'ailleurs, en général, de les manipuler un petit peu, enfin pas de les manipuler, mais de leur ouvrir un peu, hein, de dévirusser le disque dur pour s'apercevoir que c'est du vent, qu'ils n'y croient pas, hein, et qu'ils ne savent rien. C'est des propos aussi niais. D'ailleurs, il y a des préoccupations qui changent tout le temps. En ce moment, la vache folle est plus à la mode parce que le chef d'orchestre clandestin n'en parle plus. Quelques années avant, c'était le cheval. Les gens n'ont pas la moindre idée de ce qu'est le tétrahydrocannabinol, qui est un produit épouvantable. Moi, j'ai des exemples absolument hallucinants.
Je parlais tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, hein, qui est un produit absolument explosif. Et quand on est seul à seul comme ça, parce qu'en réalité, c'est vrai que l'immense majorité des Français se moquent pas mal. La meilleure preuve, c'est que on vend sur le marché en ce moment un prix extrêmement cher par rapport à ce qui représente le bupropion sous le nom de Ziban, hein, qui coûte pour s'arrêter de fumer. Ce qui ferait que si c'était vrai que les gens sont obsédés par l'idée de fumer du tétrahydrocannabinol, ils n'iraient pas acheter un produit pour arrêter de fumer. C'est une obsession générale. Tous les gens que je vois mangent des nicorettes, se mettent des patchs, etc. Et là, on voit un produit qui, en Amérique, est un antidépresseur qui doit coûter 50 francs la boîte. On le vend 600 francs. Donc, ceci est un test absolument clair et net que l'idée des Français, c'est plutôt d'arrêter de fumer que de fumer d'autres choses. Mais il y a une espèce d'effet psychotonique étrange, hein, une intoxication qui fait qu'on met dans la tête. Vous savez très bien que avec ces instruments de persuasion, ces gens qui passent des journées devant la télé, etc., vous leur faites croire n'importe quoi, hein, n'importe quoi. Du jour au lendemain, d'ailleurs. Moi, j'ai une population qui touche absolument toutes les couches sociales, hein, depuis des pairs de France jusqu'à des épiciers, et on peut en faire une statistique extrêmement valable. Hein.
Moi, je crois qu'il y a une preuve de ça, de cette dimension que vous n'acceptez pas, Jean Fouquet, c'est... Quand on voit en ce moment beaucoup, puisqu'on parle beaucoup de violence, d'insécurité, dans les lycées, les collèges notamment. Et alors, quand il y a une manifestation de violence et de délinquance criminelle dans un lycée, les jeunes, les profs se mettent en grève immédiatement. De toute façon, maintenant, on fait ça. On fait ensuite un défilé, une marche silencieuse. On envoie des équipes de psychologues, soutien psychologique. Et puis, on envoie la télé qui interroge les jeunes devant les lycées. On leur dit alors... Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais il y a de la violence, on est contre la violence. Ouais. Alors, mais d'où elle vient cette violence? Le monde répond, la violence, c'est cette violence qui s'empare des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? La violence, c'est un animal qui vous saute dessus comme ça? Non, la violence, c'est le fait qu'il y a des populations qui sont inintégrables, qui utilisent des moyens d'expression qui sont des moyens d'expression violents parce que ça appartient à leur bagage traditionnel, culturel ou civilisationnel, avec des guillemets de 3 kilos, et qu'en face, il y a des jeunes qui, eux, appartiennent à une civilisation pacifiée et qui sont terrorisés à l'idée de formuler l'ennemi. Il n'y a pas un jeune devant un lycée qui vous dira « Depuis le début de l'année, il y a eu 40 ou 50 cas de violence criminelle dans le lycée. Sur les 40 ou 50 cas, il y en a 90% qui sont le fait d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. » Jamais ils le diront. Ils vous diront tout de suite « Ah, il ne faut pas faire de racisme. Hein. Mais ah, je suis pas raciste. »
Je suis bien d'accord avec... Ce que vous dites.
C'est la même
chose. Sauf que je dis que le français moyen ne partage pas du tout votre et mon point de vue. Écoutez, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Jusqu'où ça va? Le 6 février, je viens à Radio Courtoisie. Je me gare, quoi, à 300 mètres d'ici. Il y a un monument, là, une brasserie. Bon. Et je tombe sur une... Je suis mal garé, hein, comme tout bon provincial, qui confond une borne électrique avec un parking autorisé. Bon. Et il y a là une petite dame qui officie toujours. Dame blonde, une pervenche, comme on appelle ça. Une pervenche. Je vais la voir, voyant qu'elle s'intéresse à mon véhicule, je vais la voir et je lui dis, écoutez, excusez-moi, je viens de la province, matriculé 17, bon, et on engage la conversation. Savez-vous, ouais, Radio Courtoisie, elle me dit, oui, c'est par là. Et voilà, pourquoi allez-vous à la radio? Pour telle et telle raison. Et cette dame me raconte, écoutez, je vais acheter votre livre, c'est la première contractuelle que je rencontre à Paris le 6 février. Elle me dit, voilà ce qui m'est arrivé il y a quelques mois, je l'ai raconté à mon éditeur qui est là à côté. Elle me dit, il y a quelques mois, je me suis fait violer par une bande d'immigrés, de noirs et d'arabes, voilà ce que m'a dit cette dame. Ma plainte n'a pas été prise en compte au commissariat de police parce qu'une flic qui se fait violer est encore moins crédible que quelqu'un d'autre. Cette anecdote est rigoureusement vraie. Cette dame, vous pouvez la croiser tous les jours. Mais croyez-vous que ça... Des anecdotes comme ça, on en connaît tous, on en a la pelle à raconter. Moi, en écrivant ce livre, je ne pensais pas que j'ouvrirais autant de portes ouvertes, que les gens se confieraient à moi. Mais je me suis aperçu que beaucoup de gens avaient vécu des mésaventures. Le mot est très faible. Là,
des cauchemars.
Des cauchemars, des tragédies, exactement. Absolument. Pareil, dont on ne parle jamais. Bon, mais ça ne perturbe pas davantage. Au mois de fin janvier, M. Hébert, loueur de maison, habite, je vais dire où il habite très exactement, il habite à Saint-Georges dans le Calvados. C'est un monsieur charmant, c'est un Français moyen. Il est infirmier, il a 50 ans, il a réussi dans la vie, il possède 5 maisons qu'il loue, des gîtes ruraux, bon. Et puis j'apprends à ce monsieur que Mayotte, donc régie par la charia, qui est un territoire français si je ne m'abuse, et que la loi de la République ne s'applique plus depuis, je crois, août 2000, quelque chose comme ça. Et qu'une femme vient de sauver sa tête de la lapidation pour adultère. Ce monsieur me répond, oui, mais Mayotte, c'est loin. Et je lui dis, mais je l'appelais Jean-Paul, je n'ai pas donné son nom de famille. Mais Jean-Paul, quand si ça, c'est le jour où je vous apprendrai que ça se passe en Corse, vous me direz que c'est loin. Quand ce sera dans les Bouches-du-Rhône, vous me direz que c'est loin. Dans le Calvados, vous me direz que c'est loin. À 40 ans, vous me direz toujours que c'est loin. Il faudra que votre fille rentre dans l'état d'Éric, avec une tête complètement hachée, pour estimer que c'est suffisamment près. Eh bien, Jean-Paul n'est pas un type particulièrement abruti. C'est quelqu'un qui ne vote pas, qui vote à droite en plus, hein, qui vote à droite. Bon, pas droite nationale, mais qui vote à droite. Et ce monsieur, eh bien, a la réaction du Français. Moi, c'est un Français moyen. C'est quelqu'un, il fait partie de ces gens qui sont pour les limitations de vitesse, et quand vous mettez à 110, vous êtes doublé par 9 Français sur 10.
Oui, absolument, ça c'est clair.
On est bien d'accord ?
Oui, oui, tout à fait. Voilà. Ça oui. Okay. Oui. Là-dessus, je suis d'accord. Sur le reste, je suis moins d'accord, parce que je pense que, comme le dit le docteur Plantec, quand il s'exprime, il n'exprime pas ce qu'il pense, il exprime ce qu'il croit être en adéquation avec la vulgate officielle. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème d'immigration en France, il y a un problème d'insécurité. Il n'y a pas de problème de violence de certaines populations qui sont socialement et par tradition habituées à des actes de violence, parce qu'elles ne sont pas habituées à traiter, comme nous le sommes, nous, occidentaux, frottés à 2000 ans de civilisation apprise durement, etc. Elles ne sont pas préparées à la négociation, au respect de l'autre, etc. Ce sont des civilisations, ce sont des peuplades qui respectent la force, qui respectent la violence, qui respectent, et on le voit bien d'ailleurs dans, par exemple, l'extraordinaire mépris haineux dans lequel ces gens-là tiennent la femme, qui est tout simplement, dont le seul crime est d'être plus faible, tout simplement, voilà. Alors, ça, je crois qu'ils ne disent pas la vérité quand on les interroge, pas plus qu'ils ne disent la vérité quand on leur demande ce qu'ils pensent du H, parce que, ou je vais prendre un autre exemple, l'homosexualité. Il est évident que l'homosexualité est quelque chose qui révulse la totalité des gens qui ne sont pas homosexuels. Il faut bien dire les choses, hein. Bon, eh bien, vous ne pouvez pas avoir ce discours. Jamais vous n'entendrez quelqu'un tenir ce discours à visage découvert à la télévision. Je suis sûr que si on fait un sondage à la télévision en montrant les gens en disant « Qu'est-ce que vous pensez des homosexuels ?» Ils vous répondront « Mais oh ben c'est une... Ah, c'est leur droit, chacun sa vie, chacun sa sexualité. » Mais si le soir, le gosse rentre en disant « Papa, j'ai quelque chose à te dire, tu sais que je suis pédé », alors là, ça va être un autre cinéma. C'est exactement la même chose. « Qu'est-ce que vous pensez des mariages mixtes ?»« Ah, mais moi, j'ai rien contre. Hein, si ma fille était amoureuse d'un noir, je trouverais ça... Tout... » Après tout, c'est sa vie, elle fait sa vie. Et quand la fille rentre le soir en disant « Papa, je vais te présenter mon fiancé », on a le fameux sketch de comment s'appelle Muriel Robin.
Muriel Robin, voilà. Où elle s'évanouit dans sa cuisine. Donc, il faut pas confondre le discours... hypocrite, enfin répugnant d'hypocrisie que la vulgate officielle nous force à tenir, le politiquement correct nous force à tenir, et la réalité du terrain. Je crois que c'est ça l'erreur que vous commettez. Mais enfin, il y a une erreur que vous commettez pas, c'est le témoignage. Attendez, Henri, je voudrais poursuivre. Le témoignage que vous apportez dans votre livre, qui est un témoignage d'une force extraordinaire, justement à cause de ce que vous êtes. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est à cause de l'écriture. Moi, je voudrais parler de l'écriture, quand même. Parce que c'est assez incroyable. Quand moi, c'est mon métier d'écrire, je fais que ça, mal d'ailleurs, mais enfin je le fais depuis 30 ans et plus, 35 ans. Et je vois un livre qui est écrit par quelqu'un dont c'est pas le métier, qui est dans le bâtiment,
C'est ça, vous êtes oui, là, vous m'avez dit ça tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Donc on ne peut pas dire que vous avez passé votre vie à écrire des pages et des pages.
Non.
Alors, est-ce que c'est, question à deux balles, est-ce que c'est vous vraiment qui avez écrit ça?
Ah oui, oui, bien
totalement.
Sûr. Ah oui, oui, non, mais si ça correspond à, ma, à ce que je fais.
Alors, je veux dire un truc qu'on dit toujours quand c'est une langue populaire, enfin un texte populaire, mais il y a du Céline là-dedans. Il y a pas du Céline dans le verbe, mais dans la faconde, dans la pas l'agressivité, je dirais la franchise, pas méchante, mais violente de certaines pages.
Oui,
vous le connaissez, Céline? Vous l'avez lu?
Eh bien, écoutez, j'ai fait connaissance. Je connaissais le parcours politique de l'homme. Bon, un peu chagrinant. Et j'ai connu Céline à travers mon éditeur qui m'a dit exactement ce que vous me dites. Et qui pour...
Il est pas bête, votre éditeur. Pourtant, il est jeune.
Non, mais sympathique, en plus.
Ouais.
Je m'engueule tout le temps avec lui. Et pour la créditer, m'a offert une compilation d'interviews de Céline.
Ah oui.
Bon, ça m'a fait extrêmement plaisir.
Ouais.
Mais c'est volontaire. Bon, finalement, c'est quand même ce que je suis. Moi, je suis quelqu'un de simple, donc j'écris simplement parce que le but, c'était d'être compris de tous. J'ai pas envie d'employer des mots qui nécessitent sans arrêt l'apport l'intervention d'un dictionnaire. Si c'est pour s'écouter écrire, moi, je peux faire aussi des phrases très pompeuses, employer des propos elliptiques compréhensibles de personnes. Et je voulais tout simplement être lu du plus grand nombre.
Ah, voilà ce qu'on lit, par exemple. Bon, ça va faire hurler certains auditeurs, c'est certain, mais enfin, voilà. Hein. Deux jours après, je me rends seul à Craponne. Je vise à l'entrée du village deux pandeurs et leur trafic bleu. Les deux mêmes qui nous avaient emmerdés au supermarché. Bêtement, je me dis, ils me connaissent, ils vont pas remettre ça. C'était sous-estimé, la police. Arrêt en bonne et due forme, et c'est reparti pour un tour. Le contrôle a toutefois duré un peu moins longtemps, et le flic de m'expliquer, c'est pas pour vous embêter qu'on fait ça, mais vous savez, il y a beaucoup de vols de camionnettes en ce moment qui servent à faire des casses. Alors, ben voyons, tout le monde sait qu'avec un vent hors métal, avec des bandes latérales multicolores se traînant à 110 km/h, c'est mieux indiqué qu'une BMW de 300 chevaux pour la réalisation d'un tel forfait. L'agent me rend mes papiers. Merci, monsieur l'agent, vous êtes bien gentil. Ne croyez-vous pas que cette marée chaussée à l'ardeur sécuritaire si prononcée ne serait pas plus utile à exercer ses talons aux minguettes qu'à faire chier les pauvres types à Craponne-sur-Arzon? Eh oui, mais voilà, c'est tellement moins dangereux d'emmerder un couple et un môme de 2 ans. Et ça dure quand même pendant 125 pages. Il y a de la moelle là-dedans. Hein. Alors, naturellement, c'est pas le dictionnaire de l'Académie française. Hein. Encore que tous les mots qui sont dedans figurent dans le dictionnaire de l'Académie française. Il faut lire ce bouquin d'abord parce que ça défoule bien. Hein. Après, on se sent quand même un petit peu mieux. On se sent pas tout seul. Et puis, on sent surtout que... Bon, ça, c'est pas parce qu'on est des fascistes qu'on pense ce qu'on pense. Il y a aussi des gens qui sont pas fascistes qui pensent exactement la même chose. Donc c'est plutôt réconfortant.
Très réconfortant.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Ferson? Ça fait 20 minutes qu'il veut parler. Il est insatiable.
Il faut toujours qu'il coupe la parole aussi. Ouais, il va être battu la prochaine fois.
Les oreilles en point.
C'est important. Ah, ben c'est bien le privilège des jeunes. L'insolence, c'est bien le privilège des jeunes. Moi aussi, je vais être
l'insolence. Ça va vous passer assez rapidement.
Moi aussi, je vais être un sauvageon.
La jeunesse.
Je suis un sauvageon, moi aussi.
Oui,
je voulais dire donc à monsieur Fouquet, je vais, si j'ose dire, pour parler, entre guillemets, pour parler chez Bran, je vais vous interpeller quelque part. Mais monsieur Fouquet, vous, plus que tout autre, vous pourriez comprendre, vous qui avez été au Parti communiste, et je me tourne aussi vers notre Tovalich Goffman, qui va aussi...
qui n'a jamais été au Parti communiste.
Oui, qui est de la grande famille marxiste-léniniste. Il faut savoir que les gens en France, la France vit actuellement depuis plusieurs années, voire une dizaine d'années, sous la schlag trotskiste. Et il faut savoir que les Français actuellement ne sont ni plus ni moins que comme les Allemands de l'Est que vous avez rencontrés probablement en 1976, à savoir, ils ne disent pas ce qu'ils pensent, mais ils disent ce que le parti leur autorise à dire. C'est la vérité vraie officielle du parti. Ils récitent la Pravda. Bon, en France, ils récitent Libération au Nouvel Obs. Comme j'ai dit, en URSS, on récitait la Pravda. Ou à Tirana, on récitait Zérit Hippopoulite. C'est exactement la même.
Zérit
Hippopoulite, le quotidien officiel du PC albanais.
J'aurais appris quelque chose. Un commentaire
Oui, je lisais ce journal régulièrement depuis des années.
Zérit Hippopoulite, vous
y... Oui, c'est ce que je voulais juste signaler.
Alors, un dernier mot. Vous allez partir. Attendez, laissez-moi. C'est incroyable, ils sont tous agités comme des puces. Le seul qui est olympien, les deux seuls qui soient olympiens de calme, c'est naturellement le docteur Planté, qui est zen, ça n'étonnera personne. Et Goffman, qui en a vu tellement d'autres que de toute façon, lui, une fois pour toutes, il est. Bon. Alors. Vous dites que vous allez partir au Portugal en plus.
Pourquoi en plus?
Bah parce que pourquoi partir au Portugal?
Et pourquoi pas au Portugal?
Oui, c'est vrai. C'est une bonne question.
Non, j'avais le choix entre l'Autriche et le Portugal, et mes finances ne me permettaient pas de m'installer en Autriche.
Oui, et puis en Autriche, en plus, pour un homme de gauche, l'Autriche.
Oui, non, mais oui, parce que.
La Carintie.
Parce que j'ai également dans ma famille beaucoup de Suisses et que ça correspond assez à mon esprit. Mais
cela dit, le Portugal c'est un pays fabuleux. Il faut aller dans le centre.
J'ai fait tout le Portugal. Je n'aime pas l'Algarve. Je n'aime que le nord et le centre.
Voilà, c'est ça. L'Algarve c'est les ploucs. Pas les gens du pays. Il y a trop de touristes.
Il y a trop d'anglais déjà.
Voilà. Non mais c'est vrai que le centre c'est merveilleux. C'est un pays fabuleux. Voilà. Et les Portugais sont des gens
formidables, gentils, accueillants. Voilà. Et c'est le pays d'Europe. Le moins criminogène, ne l'oublions
pas.
Et
ça y est, vous allez partir ?
Non, ben je ne pars pas parce que financièrement, je ne peux plus partir.
Ben quand vous aurez vendu votre livre, vous allez partir. Vous allez voir qu'avec cette émission, vous allez en vendre de quoi vous payer au moins un voyage.
Mais au moins un voyage, oui. Très gentil. Mais non, dans tous les cas, je pense que je quitterai la France, très franchement.
Alors ça, c'est un peu angoissant parce que on a eu Jean-Pierre Rondeau, il n'a pas quitté la France, mais il a quitté les banlieues périphériques pour aller habiter des banlieues moins périphériques. Et pourtant, c'est aussi un poilu, mais il dit c'est plus possible, quoi, il faut arrêter. Nicolas Bonnal est parti vivre en Espagne, lui il s'est carrément installé à Séville. Il m'a envoyé une lettre d'ailleurs extraordinaire sur la Semaine Sainte.
Il dit, on
comprend tout quand on voit.
Il m'a envoyé un message où il dit, quand tu reçois cette carte, vends tout tes biens.
Oui, c'est ça.
Arrive tout de suite.
Il m'a envoyé une belle photographie d'une façade d'église. Je ne savais pas qu'il y avait des croix comme ça sur les églises, même en Espagne. Mais enfin, bon, on en apprend tous les jours. Et alors, vous partez. Donc, en nous laissant une espèce de vadémécum de la colère du franchouillard.
Non, il faudra du français moyen. Non, mais il y aura une suite à ce bouquin parce que je veux.
Il y a déjà 60 pages décrites là.
Ça, il faut demander à mon éditeur qui voulait que nous restions hexagonales. Je pense que depuis 11 septembre, et ce qui est en train de se passer un petit peu partout, on ne peut plus se permettre de rester hexagonal. C'est mon point de vue. Maintenant, reste à convaincre M. Rémi Perrin, ici présent.
Et silencieusement, puis, parce qu'il a dit qu'il ne prendrait pas la parole. Donc,
on travaillera dans ce sens-là. Et j'aimerais beaucoup également pouvoir parler du résistant moyen d'aujourd'hui qui n'est pas du tout différent de celui de 40.
Bon, et ben ça nous promet des belles pages, je crois. Jean Fouquet, merci. Attendez, il va pas partir, on va poser des questions après, mais là, j'ai quelqu'un au téléphone que j'aimerais... Vous êtes obligé de partir ? Non. Que j'aimerais interroger. Allô, docteur ?
Oui.
Comment allez-vous ?
Bien, merci de penser à moi.
Nos auditeurs auront reconnu le docteur Dor. Je vous ai fait un peu attendre parce que j'avais demandé qu'on vous appelle un peu tôt pour ne pas qu'il m'arrive la même mésaventure que tout à l'heure avec le président Le Pen. Alors, qui m'a lâché en plein milieu de la côte.
Oui.
Qu'est-ce que vous nous annoncez, docteur ?
Écoutez, tout d'abord, un mot au sujet de Michel Raoult. Je viens de sa messe d'enterrement. Il y a eu beaucoup de monde à Nanterre, l'église de Sainte-Geneviève de Nanterre. Et pour dire ceci, je lui dois un hommage particulier parce que il nous a présenté un peu sur les fonts baptismaux.
Alors, il faut dire... Pardon, docteur, de vous interrompre.
Oui, pardon.
Mais il faut dire que M. Raoult était un des dirigeants des organisations de mouvement de défense de la vie et qu'il a été une des victimes du tueur camé de Nanterre.
Exactement. Voilà. Il était parmi les 8 victimes. Et donc, de façon tout à fait tragique, il s'est comporté, paraît-il, ça j'en suis certain aussi, de façon très courageuse. Mais voilà, donc, il nous a beaucoup aidés dans nos débuts. Et alors, un des meilleurs souvenirs que j'ai de lui, c'est son succès qu'il a obtenu contre Roussel Duclaf. Et il avait imaginé ceci, que chacun achète une action de la société, ce qui nous donnait droit d'entrer à l'Assemblée des actionnaires. Et alors, nous nous trouvions 30, 40, à avoir chacun une action, dont nous étions des très petits porteurs. Et je me souviens qu'on prenait la parole, et au-delà de ce qu'il fallait faire, évidemment. Et à un moment, il y en a un qui s'est levé, et c'était un Allemand. Lui, il était porteur de plus d'un million d'actions.
Ah oui.
Donc, il y avait... Et alors, c'était le combat de David contre Goliath. Et le plus fort, c'est que c'est David qui a été, et David à l'occasion, c'était Michel Raoult qui avait organisé tout ça. Et il a obtenu l'arrêt, momentané en tout cas, de l'exploitation, au moins pour l'Allemagne, je crois, du BRU 486. Donc il faut saluer ça. Et alors il y a aussi une chose, il avait un slogan que je trouvais très joli et qui est le suivant. Il posait la question, l'avortement, un petit crime? Non, un grand crime contre une petite personne. J'ai trouvé que c'était très touchant.
C'est étrange d'ailleurs ce destin.
Oui, c'est étrange.
De ce personnage qui a toujours, qui incarne vraiment tout ce que pouvait haïr le tueur.
Oui. Oui, oui.
C'est tout à fait, parce que ce tueur, c'est pas, il n'est pas tombé d'un arbre. Hein. C'est un type qui a été formé dans les mouvements de la gauche. Il a été membre du Parti socialiste. Il a été trésorier de la Ligue des droits de l'homme.
Oui.
Il a été membre d'organisations anarchistes. Il a fréquenté les milieux anars. Il semblerait qu'il ait fréquenté les tueurs du bois de Vincennes.
Florence Ray, Audrey Maupin.
Ah, ouais, Audrey Maupin et Florence Ray. Bah, c'était un type véritablement qui représentait une bombe humaine qui devait forcément aboutir à une tragédie, ce qui s'est passé d'ailleurs. Et c'est quand même très étrange, cette espèce de rencontre entre deux hommes qui représentent les deux extrémités de l'humanité.
Et ce qui est curieux, c'est que nous, on nous créditait aussi de
oui, c'est
de
vous, les commandos.
Les commandos très dangereux.
Les commandos anti-avortement.
Et là, ce serait plutôt le contraire, n'est-ce pas? C'est même tout à fait le contraire. C'est assez étrange.
Donc vous préparez là une nouvelle manifestation?
Alors oui, nous préparons une nouvelle manifestation qui, je pense, sera plus importante même que la dernière, qui était du 9 mars au Chesnay, et qui avait été importante. Il y avait, nous étions 110 à peu près, en face ils étaient 130, drapeau noir et rouge des anarchistes, il y avait des drapeaux verts, 5 drapeaux verts, 10 drapeaux rouges et noirs.
Drapeaux verts, c'est les écolos ou c'est les islamistes?
Il y avait 5 drapeaux des écolos. Et il y avait aussi deux drapeaux de Ralph Front avec le triangle rouge sur fond blanc point en bas. Et alors, ils n'ont pas arrêté de crier, de faire un bruit énorme, des blasphèmes, bien sûr. Et ce qui me frappe, moi, c'est que, véritablement, ce sont deux camps opposés. Un camp où règne l'imprécation, où le rire, le bruit, tout ça, et de l'autre, les prières. Enfin, nous n'avons fait pratiquement que chanter. On a pris un moment la parole, mais très peu. Chanter, prier. Et donc, le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Mais ceci, attention, ce n'est pas pour dire que nous sommes nous-mêmes la lumière. Ce serait évidemment ridicule et, je dirais, d'une fausseté totale. Nous espérons dans la lumière, mais nous ne sommes pas nous-mêmes la lumière, comme le penserait Rousseau, n'est-ce pas?
Alors, docteur, cette manifestation que vous préparez, parce que là, il nous reste une minute.
Oui, alors, juste une minute pour dire que c'est à 14h30,
oui.
14h30, 177 rue de Versailles, au Chesnay, samedi 6 avril. Et que, voilà, ça va durer 2h, 2h30. Ils ont promis d'être là, car la dernière fois, ils nous ont dit, on se reverra, enfin, on ne vous lâchera pas.
Ça va finir par des mariages, tout ça.
Oui, mais je me demande si... Je crois que... peut-être je voulais... Oui, enfin, je vous l'ai déjà dit, je ne veux pas le répéter. Mais je pense que nous pouvons peut-être influencer certaines personnes en face. En tout cas, il y avait, je l'ai su par les journaux, qu'il y avait entre les Verts et les anarchistes des certaines différences. Les Verts ne voulaient pas aller aussi loin que les anarchistes dans les malédictions, je crois.
Docteur, merci. On se revoit bientôt.
J'espère bien.
Et puis, donc, je rappelle votre manifestation. Le 6 avril à 17h...
À 14h30.
Non, à 14h30,
le 6 avril à 14h30.
À 14h30.
Devant l'hôpital André Mignot.
Voilà.
Au Chesnay.
Merci, docteur.
Merci beaucoup.
Bien, alors on va poser quelques questions à Jean Fouquet, mais avant, je voudrais vous donner un extrait de la première page de son livre pour que vous sachiez bien, vous ne pourrez pas dire que vous avez été pris par surprise. D'ailleurs, le premier chapitre s'appelle « Mise en garde », ça on a tout de suite compris. Je ne vais pas vous lire toute la page parce que même moi, à la radio, il y a des mots sur lesquels on peut les lire, mais les prononcer à un micro, comme c'est une radio, c'est pas certaines autres radios, quoi. Donc, c'est pas, il faut faire attention. Mais voilà. Il dit, j'aurais pu employer des mots pour d'autres. Au lieu de dire ça, j'aurais pu dire ça. Au lieu de dire ça, j'aurais pu, au lieu de con, par exemple, j'aurais pu dire, que sais-je, bête, idiot, abruti, politiquement correct, sans doute. Pour Ruquier, j'aurais pu employer animateur, humoriste, démagogue de gauche, à coup sûr. Pour Miller, j'aurais pu dire, pseudo-gaucho plein aux as, trotskiste de mes deux, donneur de leçons, menteur, délateur, voir l'affaire Poilane sur France Inter. Pour politicien, j'aurais pu employer tellement d'autres mots. Voleur, menteur, opportuniste, magouilleur, truqueur, bon à rien. Je peux pas, j'ai pas le droit dans un pays où la censure n'existe pas. Et puis, politicien, pour beaucoup, c'est tellement tout ça à la fois. D'autres mots choqueront les antiracistes, les anti-chemises brunes, les anti-vous et moi, qui ne sommes rien de tout cela, mais que le bien-pensant, le planqué, le chanteur engagé à se prendre un max de fric sur le dos des gugus a vite fait de nous associer. Noir au lieu d'homme de couleur, blanc au lieu d'homme de couleur incertaine, asiatique au lieu d'homme de couleur incertainement jaunâtre, rouge au lieu d'indien, communiste, sang, taliban des banlieues à la place de chauvageon, canaille, turbulent, petite crapule, gentil garçon désœuvré, etc. Il y a, je vous dis, le souffle célinien, puis encore j'ai arrêté parce que il y en a une pleine page. Donc c'est un bouquin à lire pour le plaisir, et puis à lire parce qu'il y a quand même une histoire qui est... Il y a des moments où les cheveux se dressent sur la tête. Hein. Donc on va donner la parole au docteur Villette dans quelques minutes, mais avant je voudrais donner la parole aux auditeurs pour interroger Monsieur Jean Fouquet.
C'est un peu des commentaires. Un auditeur nous dit « Certains libraires refusent de commander vos livres ». Et une auditrice confirme, Monsieur Fouquet a raison au sujet de l'omerta sur son livre. Je l'ai commandé après l'émission de Monsieur Marin, il y a 3 semaines. Ma libraire m'a répondu que l'éditeur Perrin n'existait pas. C'est une petite librairie à Chatou, route de maison.
Écoutez, là je prends la parole une seconde pour dire, presque toutes les émissions, pas non seulement celle-là, mais presque toutes les émissions de Radio Courtoisie, on vous dit, il y a des libraires à Paris, qui sont des libraires amis. Vous avez à Paris, bien sûr, mais il y en a un peu dans toute la France. Vous avez à Paris Duquesne Diffusion, vous avez la librairie La Licorne Bleue, vous avez la librairie nationale, vous avez la librairie France Livre, vous avez à Versailles la librairie Améracine. Il y a partout des librairies où vous trouverez ces livres-là, les livres qui sont refusés par les autres. Et puis, il y a toujours la possibilité de les commander par écrit chez l'auditeur, chez l'éditeur, c'est la meilleure solution. Alors je vais dire tout de suite que pour commander le livre de Jean Fouquet chez l'éditeur, il faut écrire aux éditions Rémy Perrin. Et l'adresse, vous l'avez, Jean Fouquet ? On va la demander à l'éditeur.
46 rue Sainte-Anne.
Voilà, 46 rue Sainte-Anne, 75 002 Paris. Et vous envoyez 13,50 €. Plus l'équivalent de 3 euros de port. Non, même pas. Hein, mais c'est en port franco. Donc, 13,50 € franco, et vous recevrez le livre de Jean Fouquet par retour. Il s'appelle J'ai hâte, aux éditions Rémy Perrin, 46 rue Sainte-Anne, 75 002 Paris. Donc, vous avez la possibilité d'aller chez les libraires ou de faire appel directement à l'éditeur. La solution, je vous le cache pas, si vous êtes provincial, la meilleure solution, ou si vous ne venez pas à Paris, ou si vous n'aimez pas vous promener dans Paris, c'est d'écrire à l'éditeur, parce que ça, c'est du bon gros sou qui rentre, quoi. Il n'y a pas de perte en ligne, comme on dit à l'EDF. Voilà. Donc,
quand vous rencontrez les jeunes dans le métro ou ailleurs, témoignez-vous de votre engagement catholique. Quand vous engagez des conversations avec eux, leur dites-vous, vous vous faites piéger, les hommes politiques ne vous aiment pas, ils vous disent la cigarette c'est grave, mais le cannabis c'est beaucoup moins grave. Monsieur Fouquet est un petit malin, et il a fait le bon choix. La Sainte Vierge a annoncé que le Portugal serait le refuge des fidèles.
Voilà. Ravi d'entendre.
Alors vous avez fait une levée de bouclier quand vous avez dit qu'on allait lire les minutes dans les toilettes. Lydie, bénévole à Radio Courtoisie, lit minutes tranquillement dans le métro. Elle l'achète chez son libraire et les Français sont tellement ignorants qu'elle n'a jamais eu de regard torve. Moi, nous dit cette autre auditrice, planquée, je ne crains que Dieu. Un auditeur militant FN, 23 ans, je n'ai pas peur de faire partie des manifs anti-gauchistes, c'est pour corriger vos courtes vues. De la Goutte d'Or à Clignancourt, en passant par le boulevard des Poissonniers et le boulevard Ney, j'ai mis 45 000 documents pour les municipales avec des militants du 18e et collé mes affiches sur les panneaux électoraux. Les derniers ne lisent pas minute dans leur toilette. Ces derniers ne lisent pas minute dans leur toilette. Ne croyez pas cela. Mais il y a aussi l'avis contraire, parce qu'un auditeur nous dit, si un régime fort, genre FN ou MNR, venait au pouvoir, je suis convaincu que ce sont les familles françaises qui en seront les premières victimes. On leur tombera dessus en priorité pour justifier les mesures prises. Un auditeur vous dit bonjour, camarade.
Vous pouvez lire l'humanité dans vos toilettes, monsieur, à ce moment-là.
Bonjour, camarade. J'ai, comme vous, milité au PS de septembre 1974 jusqu'à l'affaire du Rainbow Warrior. Puis j'ai rendu ma carte, comprenant combien j'avais été trompé et maudissant ma bêtise.
Et puis après, il a voté Chirac.
À propos des sauvageons, des éducateurs ont affirmé que ces jeunes ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Qu'à cela ne tienne, il suffit de rétablir les châtiments corporels.
Non, mais il n'y a qu'à leur faire le même mal, c'est ça?
Au moins, les sauvageons seront enfin informés.
Ils verront la différence entre le cinéma et la réalité.
Comme disait Gabin à André Pousse dans Le Pacha, les bastos, c'est plus facile à donner qu'à recevoir. Samedi 6 avril à 11h, il y aura au parc Monceau une manifestation organisée par un père dont le fils s'est fait agresser dans ce parc. Plusieurs associations apolitiques le soutiennent, j'espère que nous serons nombreux.
Samedi 6 avril à 11h, parc Monceau. Bah oui, alors. Mais pourquoi organisation apolitique? Ça, c'est marrant, cette espèce de frilosité. Ça, c'est comme quand Lambert avait lancé le mouvement Renaissance 95. Il avait organisé une grande manifestation en disant « Venez à la manif, mais surtout, aucun emblème politique. » Ben, personne n'est venu. C'est aussi simple que ça. Parce que, je veux bien, les gens sont quand même pas complètement abrutis. Hein. Les partis politiques vont pas mobiliser des manifestants pour un type qui leur dit « Je veux pas entendre parler de vous. » Bon. Donc, voilà. Enfin, si vous voulez aller manifester apolitiquement contre l'immigration, samedi 6 avril et l'insécurité, samedi 6 avril à 11h au parc Monceau. S'il fait bon, en plus, la balade vaut le coup.
Un auditeur se demande si un libraire a bien le droit de refuser de commander un livre.
Mais ah oui, ça, il peut toujours faire
l'imbécile.
Pas commander, et puis c'est tout.
Alors, plusieurs auditeurs et auditrices nous redemandent les références du livre de M. Jean Fouquet.
Alors, je répète.
J'ai hâte. C'est le titre, et c'est édité chez Rémi Perrin, 46 rue Sainte-Anne, Paris 2e. C'est pour, vous l'obtenez pour 13 francs 50 franco.
Non, 13 euros, ça.
Oh, ça 13 francs 50 francs. J'avais pourtant écrit euros.
Quelle réactionnaire,
c'est pas
un
lire.
Point incroyable.
Et je peux aussi vous
13 francs 50, c'est le prix des livres en 42, ça.
Mais non. C'est vrai. Je dois aussi vous dire que les éditions Rémi Perrin organisent une signature de livre. J'ai hâte, donc, 13,50 € franco. Vous le trouverez dans la librairie Duquesne France Livre, librairie nationale, mais il y a une dédicace jeudi 4 avril, c'est-à-dire demain, pour ceux qui écoutent ce soir, à partir de 14h30 à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne.
Duquesne, dit Philjeune. Franco vous poursuit, hein. Vous débattre. Hein.
Et une auditrice nous dit, pour conclure, le livre de M. Fouquet me rappelle Jacques Perret.
C'est vrai qu'il y a des périodes à la Jacques Perret. Hein. Voilà. Donc c'est quand même des recommandations. Je vous passerai. Demandez à Rémi de vous passer un haut du bouquin de Perret. Vous allez découvrir un magnifique écrivain, alors. Magnifique.
Non, vrai, je ne sais pas qui c'est.
Ah ben, on ne peut pas tout savoir. Moi, je ne vous connaissais pas avant de vous lire. Hein.
Et pourquoi? C'est mon premier livre.
Alors, j'ai hâte, c'est le verbe avoir, et hâte au sens de l'urgence.
Attendez, excusez-moi. On nous dit que le samedi 6, la manifestation du parc Monceau à 11h, c'est l'entrée avenue Hoche. Je vous précise.
Très bien. J'ai hâte de quoi, au fond? J'ai hâte de m'en aller au Portugal.
Non, j'ai hâte, c'est le chapitre. J'ai hâte que vous ne pouvez probablement pas lire.
Ah ouais, c'est ça.
Moi, je ne sais pas, il y a un chapitre qui s'appelle J'ai hâte.
Vous croyez que je peux pas le lire?
Chiche.
Je sais pas, on va voir. Hein. Moi, c'est pas moi qui rentre en prison. Hein.
C'est moi.
Bon, vous croyez pas ça? Vous aurez lu, vous êtes bon pour la bosse. Bon.
Depuis le temps que j'essaie d'aller
chocolat
en prison.
Chocolat ou orange?
Je voudrais voir quoi. Les deux. Chocolat à l'orange.
J'ai hâte que la France soit dirigée par un véritable gouvernement cohabitationniste, Jospin son fils ou un copain de son fils à la tête de l'État, partageant son pouvoir avec des ministres barbus en attendant qu'un imam prenne démocratiquement les rênes du pouvoir. Tout ça sous le regard ahuri d'une droite exsangue incapable. J'ai hâte de voir fleurir comme pâquerettes en mai ces mosquées qu'on nous promet tant. Ça va être d'un chic tous ces minarets dépassant de 10 mètres le clocher de nos églises, aiguillant ça et là nos villages d'Auvergne, d'Alsace, de Provence et du Limousin, sans dénaturer le moins du monde l'harmonie architecturale de l'endroit. J'ai hâte de ne plus être réveillé par le chant du coq, mais par l'appel à la prière du moufti champenois, breton ou normand. J'ai hâte de ne plus pouvoir bouffer de charcuterie, de côte dans l'échine, de boudin noir, de pied pané, de saucisses de Toulouse ou de Strasbourg. Un régime sans porc, mon cholestérol y pense depuis si longtemps. J'ai hâte de ne plus voir dans mes campagnes que les troupeaux de moutons que je saignerai moi-même à l'occasion de la fête nationale de l'Aït el-Kébir. J'ai hâte de me fagoter en djellaba, le jeans me boudine trop, les babouches à la place des Santiago et le sweat à capuche estampillé taliban en guise de perfecto. J'ai hâte que Peugeot et Citroën nous sortent leur nouveau modèle de monospace à 15 places version limitée rideau. J'ai hâte de ne plus piquer la tronche au gros rouge et de murger le turban au Coca-Cola, la seule boisson recommandée par l'islam. J'ai hâte de me cancériser les poumons à la Marlboro. J'ai hâte de flinguer mon pincher et de le remplacer par un pitbull. J'ai hâte d'apprendre l'arabe en première langue. J'ai hâte que le mot intégration reprenne tout son sens. Oui, je m'intègre à mes nouveaux compatriotes musulmans. J'ai hâte que mes mômes aillent à l'école coranique. J'ai hâte de coller des baffes à Bobonne sans raison parce que, comme dit le proverbe, si moi je sais pas pourquoi, elle le sait. J'ai hâte de voir ma rombière et ma gamine enturbanées comme des momies. J'ai hâte de me taper des pignoles en pensant au bon vieux temps des portes jartelles et des bas nylon. J'ai hâte de voir ma môme en cloque tous les ans. J'ai hâte que ses grossesses lui déforment le bide comme un énorme loukoum. J'ai hâte qu'on retire le droit de vote à ces sous-hommes que sont en fin de compte les femmes. J'ai hâte de voter pour le fils. J'ai hâte d'être barbu de la tête aux pieds. J'ai hâte de lire tous les jours qu'Allah fait un versant du Coran. J'ai hâte que l'Afghanistan s'étende de Gibraltar à Stockholm. J'ai hâte de me faire rebaptiser Aziz. J'ai hâte d'être musulman. Ben bon,
voilà. Ouf. Tout y est.
Qu'est-ce qui se passe, Franck? On a quelqu'un au téléphone. Est-ce qu'on, ben on va, il doit avoir hâte qu'on lui donne la parole, lui aussi. Merci, merci Jean Fouquet. Et ben, je vous dis pas bonne chance, mais enfin, je souhaite vraiment qu'on lise votre livre. Qui est paru chez Rémi Perrin, 46 rue Sainte-Anne, 75002 Paris. Allô, docteur Villette?
Oui, je suis là. Bonsoir, chers amis. Je n'avais pas hâte de prendre la parole parce que je vous écoutais et je me régalais. Alors, bravo.
Il y en a un qui n'était pas content, c'est Franck, parce que j'ai pas réalisé que c'était nous qui appelions.
Et voilà.
Je pensais que c'était vous qui appeliez, alors j'étais pas pressé, tandis que là, la note de téléphone, bon.
Voilà, alors je vais être...
Donc vous êtes prié d'envoyer un petit chèque quand même.
Je vais être sympa. Ah, oui, voilà. Oui, mais il n'y a pas de... De toute façon, je dis à tous mes amis de prendre la parabole, hein.
C'est bien.
D'autant plus que...
Pour écouter TPS. Alors,
pour écouter Radio Conseil.
Oui, mais enfin, sur TPS, bien entendu, on est bien d'accord.
Bien évidemment.
Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire, docteur? Eh ben, vous préparez aussi une manifestation?
Ça va être une chaude journée de militants, puisque 11h, Parc Monceau, j'ai entendu. Et d'autre part, le 6 avril, c'est le premier samedi du mois, donc je rappelle depuis 10 ans, inlassablement, qu'il faut qu'on se bouge, si on ne veut pas avoir un petit bout de charia de ces jours et qu'on n'ait pas à se reprocher quelque chose. Au moins, on aura... fait ce fameux témoignage public que le docteur Dor fait devant les avortoirs et que je recommande dans les cathédrales. C'est les deux points forts. Et puis peut-être qu'un jour, nos évêques prendront la tête du mouvement comme aux États-Unis pour aller de la cathédrale devant les avortoirs. Là, ce sera vraiment gagné, je pense. Mais il faut peut-être pas espérer avoir le minaret avant. Bon, alors, samedi 6 avril, ce qui est merveilleux, c'est que avec le docteur Dor, on s'est mis d'accord. Et quand on dit, vous voyez, les associations, elles se divisent, elles se disputent pas du tout. Et on s'est dit, le 6 avril, on va faire quelque chose en gardant nos indépendances. Mouvements gardent leur personnalité, leur diversité, leur richesse, mais coordonnent leur action. Et le 6 avril, vous savez que le docteur Dor donne rendez-vous, comme le mois dernier, devant l'avortoir du Chénet, 177 rue de Versailles, à 14h30. Et comme le Roseur pour la vie, c'est à 17h, le docteur Dor va annoncer à la fin de la manifestation de l'avortoir du Chénet de rejoindre les cathédrales, pour ne pas désarmer, bien sûr, les cathédrales. Bien sûr, la cathédrale la plus proche du Chénet, c'est celle de Versailles. Donc, après la manif du docteur Dor, eh bien, on continue, chapeau à la main, dans les cathédrales. Alors, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait qu'en Île-de-France, bon, dans les cathédrales de France, pratiquement partout, ça a lieu à 17h. Mais il y a quelques exceptions, et notamment en région parisienne, en Île-de-France. Saint-Denis est à 15h, donc le groupe de Saint-Denis ne pourra pas rejoindre le docteur Dor. À Meaux, c'est à 15h45, et à Pontoise, à 14h30. Donc, ces trois groupes, Saint-Denis, Meaux, Pontoise, vont faire leur rosaire exceptionnellement à 15h, 15h45 et 14h30. À Mantes, c'est à 12h. ils ont le temps de finir et de rejoindre le docteur d'or. Par contre, dans les autres groupes, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris, Créteil, la Basilique de Lompon, Nanterre, Versailles, c'est à 17h. Donc, le samedi, 11h Parc Monceau, et puis ensuite, 14h30, docteur d'or, 17h les cathédrales.
J'espère qu'il va faire beau, parce qu'il va falloir circuler, là.
Ah ben, disons que il y a quand même des moyens de locomotion, hein. Et puis, dans toute la France, il faut maintenir la pression de ces manifestations dans les rues comme dans les cathédrales, de façon à mettre nos autorités civiles et religieuses au pied du mur. Et il y a de plus en plus d'évêques qui, finalement, finissent par recommander les rosaires pour la vie. Ça fait quand même 10 ans que ça se développe. Et d'autres y viennent même. Je pense à quelques évêques qui se déplacent, qui viennent assister. Il y en a encore un, dans toute la France. Qui fait la fine bouche, c'est l'évêque de Limoges.
Il ferme son église quand on vient réciter le rosaire.
Ah ben, le mois dernier, le cathédrale était fermée à 14h. Alors là, il faut justement que nos amis, même pas pratiquants, qui sont catholiques, baptisés, mais ou même pas, qui soient musulmans, même aussi, pourquoi pas. Non, je plaisante. Mais que tout le monde serre un peu les coudes en disant, c'est quand même grave. On tue des bébés, on fait des campagnes pour sauver les bébés phoques. Brigitte Bardot a pris un certain âge maintenant, ou un âge certain. Mais il faut quand même sauver les bébés hommes.
Et on a un Christ. Ça n'empêche pas de faire du bon travail, hein. L'âge n'a rien à voir à l'affaire.
Exactement. Donc elle continue son... On en parle moins, mais disons que les bébés hommes, c'est quand même une priorité. Alors, on a dépassé le cap du milliard d'enfants tués légalement depuis les lois sur l'avortement dans le monde en 1997. Maintenant, je ne sais pas exactement combien l'ONU nous dirait, parce que 1 milliard d'enfants tués dans le monde en 1997, c'était les chiffres de l'ONU. Donc, il faut quand même qu'on prenne conscience qu'il y a un crime contre l'humanité qui dépasse toute mesure. Et quand on voit au mémorial du milliard à Chantemerle-les-Blés, à la messe de Pâques, ces 100 petites croix qui représentent ce milliard, c'est le mémorial du milliard, on visualise l'horreur. Alors, il faut continuer à venir en pèlerinage au sanctuaire Saint-Joseph du Saint-Sauveur à Chantemerle, mais il faut surtout tous les mois se rassembler de plus en plus nombreux dans nos cathédrales.
Là, le premier samedi du mois, rosaire dans les cathédrales de France.
Voilà, c'est la priorité.
Entendu. Alors,
éventuellement, je peux rappeler les exceptions pour Île-de-France. Saint-Denis, c'est à 15h. Meaux, 15h45. Pontoise, 14h30. Mantes à 12h. Tout le reste, 17h.
Merci, docteur.
Et puis, mon adresse, si on veut me demander des renseignements, docteur Villette, 26 400, Vaux-Navet, Vaux-Navet.
Vous n'avez pas compris.
À Radio Courtoisie, puis elle transmettra.
Entendu. À bientôt.
Vous êtes gentil et bonne continuation à tous.
Merci.
Au revoir.
Il y a plein de docteurs ce soir. Il y en a un qui va intervenir. Je vais vous demander d'ailleurs, Jean Fouquet, de bien vouloir laisser votre place au micro. C'est la faculté ce soir au docteur Mera qui va nous parler tout à l'heure de la prochaine du prochain symposium sur le Saint-Suaire de Turin. Patrick Goffman, si vous voulez avoir la gentillesse, je suis ravi de vous approcher du micro.
Je profite du mouvement pour dire qu'une auditrice assure que c'est un livre, en parlant du livre de M. Fouquet, c'est un livre merveilleux, on se le repasse dans ma famille.
Oui, il est bien.
À Versailles, on le trouve à la librairie Âmes et Racines.
Âmes et Racines, absolument. Juste en face de la cathédrale. Enfin, c'est plus la cathédrale, si, c'est toujours la cathédrale, je ne sais plus. Je...
Vous demandez pourquoi.
Versailles, Goffman, c'est la cathédrale de Versailles ou pas?
Bien sûr, il y a un évêché à Versailles.
Ah bah oui, bien sûr, mais est-ce que c'est bien la cathédrale qui est... Enfin, c'est Saint-Louis ou je ne sais plus. Si quelqu'un le sait, oui, enfin, vous pouvez nous appeler pour nous le dire, que ce soit...
Alors, je débute en tant qu'expert religieux.
Il manquait plus que ça à sa panoplie.
Je vais continuer en ajoutant ma goutte d'eau déluge de compliments faits à M. Fouquet, parce qu'il se trouve que je suis un des rares lecteurs de son livre et que j'ai également beaucoup apprécié.
C'est bien. Hein. Ouais. Bien, bah alors voilà, il ne vous reste plus qu'à l'acheter et à le lire. Ou à le voler. De toute façon, c'est pareil. Même si vous le volez, l'éditeur touche sa partie. Donc, ça ne le gêne pas du tout. Sauf si vous le volez chez lui, bien entendu, ce qui est beaucoup moins drôle. Alors, Patrick Goffman, on va faire régulièrement, jusqu'à ce que l'émission ait atteint Vladimir Poutine, on fera une petite évocation de Limonov, écrivain franco-russe qui est actuellement détenu à l'Efortovo. C'est presque mythique. Enfin, il y a
la prison spéciale du FSB.
Et ça commence. La pétition commence à rassembler beaucoup, beaucoup, beaucoup de signatures. Une pétition que vous avez lancée. Et vous venez pour nous d'abord pour dire merci, je crois.
Je finirai par dire merci parce que je pense que si je commence par résumer l'affaire, informer les auditeurs des derniers événements de ce qui est maintenant une campagne internationale pour la libération d'Edouard Limonov, ils comprendront mieux de quoi je les remercierai en conclusion.
D'accord. Alors donc, expliquez-nous où en est cette affaire. D'abord, il faut quand même rappeler brièvement qui est Limonov, les raisons pour lesquelles il est en prison, et puis ce que vous avez fait.
Alors, résumé des chapitres précédents, puisqu'il s'agit d'un écrivain, Edouard Limonov, né en 1943 à Kharkov, en Ukraine, fils d'un officier subalterne du NKVD, devient tout naturellement un poète, dissident et contestataire. Il exerce un moment ses talents à Moscou et rapidement, en 1974, il est expulsé pour donc dissidence poétique. Il vit quelques années à New York et puis son premier livre est publié par Jean-Jacques Pauvert à Paris. Il vient soutenir le livre en France et il y reste pendant une quinzaine d'années au cours desquelles il publie 17 livres en français chez Albin Michel, chez Flammarion, aux éditions du Rocher, chez beaucoup des éditeurs les plus prestigieux. Il s'attire l'amitié, l'estime de critiques aussi difficiles, aussi cruelles que Patrick Besson et beaucoup d'autres, même s'il ne retient l'attention que de quelques milliers de lectures. Et il acquiert la nationalité française. En 1993, il est devenu un patriote. Un patriote russe, et il rentre à Moscou pour participer à la reconstruction de son pays dont il est question à ce moment-là. C'est devenu un patriote, bon, certains disent, y compris parmi ses supporters, un peu excentrique, un peu agité, et donc il pense aider à la reconstruction de la Russie en créant le Parti National Bolchevique, qui n'est pas très nombreux, dont les membres ne sont pas très âgés ni toujours très raisonnables. Il y a un journal qui s'appelle Limonka, en argot militaire russe, ça veut dire la grenade, et c'est
le petit citron.
Voilà, le petit citron, donc oui, en russe convenable, c'est voilà. Le petit citron, en argot militaire russe, c'est la grenade. Et comme son nom l'indique, ce journal est extrêmement désagréable avec le gouvernement Poutine, et il représente le point de vue des rares russes patriotes nationaux que Poutine n'a pas conquis en promettant de buter les terroristes islamistes de Tchétchénie jusque dans les chiottes, fermez les guillemets, et il est extrêmement contrariant, extrêmement désagréable avec ce gouvernement Poutine. Et il attire l'attention sur lui sans arrêt en pratiquant ce que Monsieur Pribilovski, un homme politique de gauche, correspondant à Moscou de la pensée russe, l'hebdomadaire parisien de langue russe, a qualifié de terrorisme de la tomate et de l'œuf. Oui, moi aussi je suis un peu troublé là. Est-ce que je peux fermer la porte?
Non, elle va se fermer tout de suite. Il y avait des bruits d'hiver.
Oui, excusez-moi, mais à mon âge, on commence à avoir du mal à discriminer entre le brouhaha général et sa propre voix.
Quand vous scalez forte voix, ça ira beaucoup mieux. Il n'y a pas de bruit là.
Oui, je disais donc que Limonov, autour de journal Limonka et de ce parti national bolchevique, organise donc ce que Pribilovski, un homme de gauche donc qui vient de dénoncer et de décrire et de nommer la provocation dont il a été victime, qualifie de terrorisme de la tomate et de l'œuf, mais on lui a mis sur le dos l'achat à la suite d'une provocation par deux gamins de son parti, de deux vieilles kalachnikov, et maintenant depuis près d'un an il est enfermé dans la prison spéciale du FSB, c'est-à-dire de...
Ce qui par parenthèse montre que c'est plus difficile et plus dangereux de se procurer des kalachnikov à Moscou qu'à Sarcelles,
Oui, on a retrouvé 12, j'ai le chiffre par hasard, j'ai lu un livre cette nuit qui m'a appris qu'on avait saisi dans les banlieues françaises 12 lance-roquettes, c'est-à-dire bazookas, cette année. Les suites judiciaires, je pense que ce sont les suites habituelles, semonce du juge, avertissement,
oui,
et puis à demain, mon cher Aziz, bon, ne dérapons pas, restons à Moscou. Voilà donc près d'un an, bientôt un an, qu'Edouard Limonov a après avoir été donc associé tout à fait arbitrairement et sans preuve à l'achat de ces deux de ces deux Kalachnikov, dont les vendeurs sont toujours n'ont jamais été inquiétés, dont les acheteurs ont été arrêtés dans le quart d'heure qui a suivi, il est maintenant inculpé pratiquement de tous les crimes prévus au code pénal russe, et qui en prévoit beaucoup, terrorisme, préparation d'un putsch, il voulait mettre le Kazakhstan à feu et à sang, etc., etc. D'après toujours Pribilovski, la pensée russe que je citais la dernière fois, son interprétation c'est que certains services de l'administration rivaux pour capter l'attention de Poutine ont pensé lui faire plaisir en faisant cet exemple, en faisant cette démonstration d'énergie. On n'a pas peur de matraquer, d'emprisonner un écrivain, c'est pas les intellos qui nous font peur, les criailleries de l'Occident, on s'en fiche, etc. Et à vrai dire, nous-mêmes amis et confrères écrivains français, nous avons mis plusieurs mois à réagir parce que nous avons eu le tort de nous dire, de ne pas en parler, de nous dire chacun une péto, mais c'est vrai, il nous embête, il est très bien ce Poutine, pourquoi est-ce qu'il lui met des bâtons dans les roues? J'avoue que quand j'ai lu sous la plume de Poutine des comparaisons entre la barbarie de l'armée russe et la barbarie comparable des islamistes tchétchènes, j'étais extrêmement choqué, et donc quand il s'est retrouvé en cabane, bon, j'ai pas dit c'est bien fait pour lui, mais enfin...
Pas la plume de Poutine, la plume de Limonov.
Oui, sous la plume de Limonov, je me suis pas dit c'est bien fait pour lui, mais enfin... ça m'a pas réveillé en sursaut, ça m'a pas déchaîné. Nous nous sommes déchaînés en apprenant qu'il était sous le coup de 15 à 23 ans de prison, ce qui est vraiment plus que déraisonnable. Alors, le point, il faut revenir à sa nationalité française, et deux mois après Serge de Bekech qui a souligné ce point-là le premier, faire la comparaison avec un franco-marocain qui s'appelle Moussaoui, qui est manifestement, très certainement, qu'on peut présumer coupable d'un complot qui a abouti à la mort de plusieurs milliers de citoyens américains innocents, et qui bénéficie du soutien consulaire français, de communiqués du ministère de la Justice et de celui des Affaires étrangères le jour même de son inculpation aux États-Unis.
Or, il faut quand même dire que Moussaoui est aussi français que Limonov, ou Limonov est aussi français que Moussaoui.
Il n'y a qu'une petite différence, c'est que l'un est un chrétien innocent et l'autre un musulman coupable.
Oui, mais ça, ça ne fait pas de différence.
Ça vaut beaucoup mieux en France d'être un musulman coupable. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de Russes. De Russes dans les banlieues, il en arrive quelques-uns, il entraîne quelques-uns dans le métro, on entend un peu parler russe ici et là, mais c'est pas 5-6 millions d'électeurs. Et quelqu'un qui aurait un mauvais esprit pourrait s'imaginer que le gouvernement en place est prêt à toutes les bassesses, c'est-à-dire aussi bien à lécher le cul d'un criminel qui crache sur son soutien consulaire pour flatter cet électorat musulman, qu'a abandonné un chrétien innocent dont la simple mention pourrait contrarier ce même électorat.
Alors, à propos de... Je voudrais profiter de ce que vous évoquez à l'instant, la campagne, les faits immigration dans la campagne, en citant un extrait du Libre Journal de cette semaine, de cette décade... Je suis allé visiter un site internet qui s'appelle Labour avec Chirac, qui n'est pas du tout une invention, c'est un site qui a été monté sur internet par un des dirigeants de la campagne de Chirac, dont d'ailleurs fait ses documents, la lettre confidentielle de Ratier donne le nom. Je le trouve pas pour l'instant, mais je le trouverai, je vous le dirai. Tiens, vous voulez chercher Henri, s'il vous plaît. Donc, ça a été monté par un des dirigeants de la campagne de Chirac. Ça s'appelle Labour avec Chirac en un seul mot, point, comme si je ne m'abuse. Et voilà ce qu'on lit là-dedans. Jacques Chirac est un homme d'ouverture et de dialogue qui n'a pas peur d'aller au contact des autres, notamment dans les cités. Jacques Chirac prône un discours de la responsabilité contre celui du misérabilisme et de l'assistanat qui détruit le lien social dans les quartiers et ruine l'avenir de milliers de jeunes issus de l'immigration. Jacques Chirac, contrairement à son prédécesseur à l'Élysée, n'a jamais instrumentalisé les beurs sur le plan politique. Je trouve d'ailleurs que sur un site qui justement instrumentalise les beurs sur le plan politique, c'est une revendication qui est quand même assez culottée. Jacques Chirac est un véritable amoureux de la culture arabo-musulmane. Jacques Chirac est l'ami du monde arabe. Jacques Chirac a toujours soutenu les pays du Maghreb. Jacques Chirac est celui qui a reconnu les harkis et leur action en faveur de la France. Jacques Chirac est un homme qui n'a jamais fait de concession à Jean-Marie Le Pen. Il a toujours fait en sorte que les beurs trouvent une place importante dans la vie politique. Et vous remarquerez qu'on ne parle pas d'un sujet d'actualité à propos des beurs. Pas Jacques Chirac, mais sur le même site, on lit la chose suivante. On lit une interview d'un beurre qui s'appelle Saïd Zamoun, qui est ce que j'appelle un lu, c'est-à-dire un petit beurre utile, et qui explique pourquoi il va voter Chirac. Alors il dit, pour deux raisons bien simples, sur le plan national, Chirac est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute des cités. Effectivement, il trouvait même que ça faisait du bruit. Il n'a pas parlé de l'odeur, mais enfin, Zamoun ne parle pas de l'odeur, mais Chirac lui en avait parlé. Et il a compris les enjeux qui traversent la communauté musulmane et les quartiers sensibles. Vous voyez comment il parle, les beurs, aujourd'hui, les enjeux qui traversent la communauté. Et alors, on va un peu plus loin, et M. Zamoun nous dit, par ailleurs, chaque fois qu'il a pu aider les jeunes en difficulté, il l'a fait. Je me souviens qu'à l'époque où il était maire de Paris, il a toujours répondu présent quand on le sollicitait sur un dossier logement ou une aide pour une association, pour nos associations. C'est intéressant comme révélation, ça. Et alors il ajoute, pour terminer, ça qui va certainement faire beaucoup beaucoup plaisir aux juifs qui sont toujours intéressés à ce qu'on pense de la situation actuelle. Il dit, sur le plan international, Monsieur Zamoun, sur le site Les Beurs avec Chirac, qui est un site qui est fait pour inciter l'immigration musulmane à voter Chirac à la présidentielle, sur le plan international, je ne vous cacherai pas que ces positions dans le conflit entre Israël et la Palestine me réjouissent et me séduisent, dit M. Zamoun. Il est très proche des pays arabes et musulmans qui souffrent, il faut le dire. Il n'est pas du côté d'Israël systématiquement. D'autre part, avec mon pays d'origine, l'Algérie, il a su renouer des contacts importants, rompant ainsi avec l'isolement. Ce sont des signes auxquels je suis sensible et mes amis arabes aussi. Donc voilà un arabe algérien qui nous dit, moi je vais voter Chirac à l'élection présidentielle française. Pourquoi ? Parce que Chirac est pour les Arabes contre les Israéliens, ça c'est son droit, mais aussi parce que Chirac va entretenir des contacts avec l'Algérie et rompre un isolement avec mon pays. Il faudrait quand même s'entendre, si son pays c'est l'Algérie, pourquoi il va voter pour Chirac à la présidentielle en France ? Donc je trouve ça légèrement confus quand même. Simplement, ce que je constate, c'est que, parce que j'ai un peu de mémoire, je me souviens que il y a 7 ans, lors de la présidentielle précédente, le rabbin des Lubavitch à Paris, après l'élection de Jacques Chirac, avait dit officiellement dans la presse communautaire et la presse confessionnelle communautaire, c'est grâce à nous que Chirac a été élu et maintenant il va falloir qu'il manifeste sa reconnaissance. Et effectivement, quelques temps après, il y a eu la fameuse déclaration sur la dette imprescriptible de l'État français à l'égard de la communauté israélite. Et bon, je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous n'avez qu'à regarder vos impôts, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle. Et là, Jacques Chirac est en train de nous dire qu'il va reconnaître la dette imprescriptible de l'État gaulien à l'égard de l'Algérie, parce que Bouteflika nous a expliqué que si l'Algérie est dans la mouise aujourd'hui, c'est pas du tout parce qu'elle est dirigée par des abrutis incapables et corrompus, c'est uniquement parce qu'elle a vécu 130 ans sous la colonisation française. Sans ça, ça serait le paradis sur terre. Hein? Donc maintenant, Chirac, une fois qu'il aura été élu avec les beurs avec Chirac, eh bien il va aller voir M. Bouteflika, il va reconnaître le caractère imprescriptible de la dette de l'État gaulien à l'égard de l'Algérie, et les contribuables français vont payer. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, d'avoir un président de la République qui a fait son premier septennat élu grâce au Lubavitch, et qui va faire son deuxième septennat élu grâce au beurre. Là, on ne peut pas l'accuser d'être sectaire, en tout cas. Je pense que s'il fait un troisième septennat, il se fera élire par la communauté indochinoise en France. Hein, on peut s'attendre à tout. D'ici là, peut-être que les Martiens voteront pour lui. Va savoir. Donc, on comprend bien, effectivement, pourquoi personne ne s'intéresse à Limonov et tout le monde s'intéresse à Moussaoui. C'est vrai que si les Russes arrivent, à ce moment-là, on va peut-être voir tout d'un coup manifester un certain intérêt pour le français Limonov, dans la mesure où il y aura 6 millions d'électeurs russes pour la présidentielle de 2012.
C'est ça. Voilà. Mais pour le moment, malheureusement, non seulement il n'y a pas de communiqué trompettant du Quai d'Orsay dans tous les journaux, le jour même ni 11 mois après, mais notre ami le journaliste américain Mark Amis en poste à Moscou, qui téléphone au consul de France à Moscou pour savoir s'il a enfin reçu les appels au secours, les demandes de médicaments de l'avocat de Limonov, se fait rironner, purement et simplement. Sans doute parce que cet homme est très au fait de l'orientation politique du gouvernement qu'il a envoyé à Moscou, et peut-être moins au fait des aléas, des tournants de l'histoire qui pourraient bien lui présenter la facture pour un jour pour cet éclat de rire un petit peu incongru au sujet d'un citoyen français âgé de 58 ans, malade, emprisonné sans médicaments depuis près d'un an pour délit d'opinion. J'ai reçu une lettre d'Edouard Limonov hier d'une façon un petit peu acrobatique. C'était touchant tellement c'était acrobatique. Je dois dire que, je demande pardon, le site, l'adresse électronique avec laquelle on pouvait communiquer là-bas a été frappé de prohibition administrative, ce qui est un anglicisme que les Russes ont visiblement adopté d'enthousiasme. J'ai reçu avec une adresse d'expéditeur illisible parce que mon ordinateur primitif ne lit pas les caractères russes, encore moins bien que moi, mais je pouvais ouvrir une image JPEG pour les initiés, et donc j'ai vu arriver une lettre de prison écrite au crayon sur un papier, un grossier papier à carreaux de la main d'Edouard lui-même, sous la forme, une des formes les plus achevées de la technique moderne, c'est-à-dire une image JPEG sur mon ordinateur. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Je me suis précipité pour lui répondre, et tout ce que j'avais, c'était le numéro de télécopie, j'ai failli dire fax, le numéro de télécopie de son avocat Moscou. J'ai essayé à 3-4 reprises, ça n'est jamais passé, et à mon tour je me suis contorsionné, c'est-à-dire que j'ai envoyé ma réponse en pièce jointe à notre ami Mark Amis, qui a la seule adresse électronique, parce qu'il est américain, peut-être on n'ose pas y toucher là-bas, en le priant de bien vouloir voir si lui pouvait faxer depuis Moscou à Moscou, ou passer à l'avocat d'une façon ou d'une autre.
Ce qui est drôle, si j'ose dire, c'est que en France, quand on veut avoir un site incorrect, hein, qui serait interdit en .fr, on prend un site .ru. C'est-à-dire que si on veut tenir des propos politiquement incorrects sur l'Internet en France, il faut passer par une adresse russe, mais si on veut envoyer un texte politiquement incorrect en Russie par Internet, il faut passer par une adresse américaine.
Oh, un texte d'amitié, un écrivain français injustement emprisonné. Alors, je ne peux pas rendre public tous les propos qu'Edouard tient dans cette lettre personnelle, mais je peux dire l'essentiel, à savoir que sans venir le procès proprement dit, après un an d'instruction pour deux Kalachnikov vendus par des crapules à des gamins, et en fait, ça devait durer beaucoup plus longtemps. Et il me dit, ça pourrait être mi-avril, début mai, peut-être un peu plus. Mais manifestement, je n'en suis pas certain, mais je retiens ça comme un indice de la protestation croissante à l'échelle internationale. Je rappelle que nous avons réuni à Paris non seulement la plupart des dirigeants des maisons d'édition les plus prestigieuses, des noms tout à fait prestigieux d'écrivains d'extrême-gauche comme Gilles Perrault, d'extrême-droite comme je ne sais qui. Non, on n'a pas le droit d'être d'extrême-droite, il ne faut pas le dire.
Des bonnes signatures, des signatures recommandables aussi.
Voilà, de tous les bords politiques en tout cas, mais également, j'ai recueilli les signatures du secrétaire du PN Club de Taipei.
Et même la directrice d'un journal centriste qui est Rivarol, voilà. Camille Guéric, qui a signé...
le PN Club belge francophone et néerlandophone, pour une fois unis, sur la cause de Limonov.
En revanche, le Suisse, lui...
Le Suisse s'est rebellé hier, oui. À chaque fois que je viens, tous les 15 jours, la veille, j'ai eu une révolte. Alors, donc, il y a 15 jours, c'était Monsieur Michel Combes de Livre Hebdo. Et puis, alors là, c'est le patron du Pen Club suisse, germanophone, qui d'un seul coup se révolte. Après avoir reçu passivement mes messages quasi quotidiens pendant 3 mois, il se révolte et il me dit « Assez, arrêtez les messages, j'ai assez, arrêtez bon. ». Alors je lui ai simplement répondu « Monsieur, soyez assez gentil et assez intelligent pour me donner l'adresse à laquelle je vous envoie ces messages, parce que je suis charmé de connaître l'adresse électronique de votre ordinateur perso ou celui de votre cuisine, mais indiquez-moi l'adresse à laquelle ces messages insupportables vous parviennent, s'il vous plaît ». Et j'avoue qu'une fois de plus, j'ai eu la méchanceté de faire circuler ça auprès de mes 500 ou 600 correspondants pour les amuser. Et comble du bonheur, nous recevons, je vous le donne en mille, il y a une semaine, le renfort, devinez, non seulement d'écrivains russes, mais de 2 groupes d'écrivains russes, c'est-à-dire que les merveilleux, les extraordinaires écrivains russes nous font parvenir 2 lettres ouvertes qu'ils ont adressées au président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Nous avons la pétition des écrivains nationaux et la pétition, je m'excuse de sourire un peu, sourire bruyamment comme on le conseille dans les écoles de vente par téléphone, de mes confrères russes que j'admire. Je recueille des noms comme ceux de Ludmila Ulitskaya, qui est l'auteur du délicieux Sanietchka qu'on trouve en livre de poche en France. Il y a d'autres des noms illustres. Mais bon, on peut sourire du fait que nos confrères russes ont dû rédiger une lettre de nationaux, une lettre de libéraux, alors que nous, Français, qui sommes censés, Gaulois, nous querellés, avons pu réunir toutes les tendances politiques sur...
Sauf l'extrême droite, quand même.
Sauf l'extrême droite, naturellement, qui est bannie, que nous ne voulons pas, que nous avons exclu, comme tout le monde. Mais tous les autres courants sur une seule lettre qui se fonde simplement sur le respect, la défense des libertés. Donc je ne voulais pas ces lettres, sauf un petit extrait de la lettre des nationaux, parce qu'ils font référence à la politique française, disant au président Poutine, je cite, « Dans une autre époque, mais dans des conditions semblables, De Gaulle n'a pas autorisé l'arrestation de l'écrivain Jean-Paul Sartre en déclarant « On ne juge pas Voltaire ». Les idées doivent être combattues par d'autres idées. Malheureusement, vous n'avez pas suivi l'exemple de Gaulle, mais celui des fonctionnaires et détenteurs du pouvoir qui faisaient arrêter Radichev, Tchernychevski, Dostoïevski et Maxime Gorki. Alors, je cite ça également, pas simplement pour faire cocorico, les écrivains russes citent la politique française et la donnent en exemple, mais pour voir que nous ne sommes pas les seuls, Patrick Besson, moi-même et quelques autres, à considérer que Limonov est un grand écrivain et n'en déplaise à Solzhenitsyn, peut-être le plus grand écrivain russe vivant, puisque ses propres confrères dans son propre pays, et vous savez comme les écrivains ont la dent dure entre eux, n'hésitent pas à le comparer à Voltaire, à Tchernychevski, à Dostoïevski et à Maxime Gorki. J'en aurais terminé quand j'aurais présenté les remerciements annoncés. La semaine dernière, je me suis laissé aller pour la première, j'espère la dernière fois de ma vie, à Gindre, au sujet d'une facture de téléphone de 2500 francs que me valaient les centaines de fax et les dizaines de milliers de messages électroniques que j'envoie tout autour du monde sur cette affaire, et avouer donc publiquement que j'étais bien embêté pour les payer. Et ce que je tenais à dire à ce micro, c'est que les merveilleux auditeurs de Radio Courtoisie et lecteurs du Libre Journal, puisque nous avions domicilié mes gémissements au Libre Journal sans rappeler votre adresse, donc c'était nécessairement des gens qui avaient un exemplaire du Libre Journal sous la main, non seulement m'ont envoyé de l'argent pour me dédommager de ma facture de téléphone, mais ils m'ont envoyé à quelques euros près le montant exact que j'avais cité de 2500 francs, j'ai oublié combien ça fait en euros, plus quelques euros, si bien que j'ai pu m'offrir quelques caramels à leurs frais, mais en aucun cas aller me saouler la gueule comme j'aurais fait immanquablement. Alors, je suis émerveillé. C'est arrivé avec des cartes de visite, avec des lettres, avec des pensées, avec des prières pour le mécréant notoire que je suis, et que j'apprécie comme autant de pensées délicate, et il y a même des gens qui me conseillent de ne pas remercier parce que j'aurais autre chose à faire, je les rassure. J'ai eu le temps de leur répondre, de leur écrire hier un par un, naturellement, avec une petite surprise jointe. C'est parti hier en écoplie et ça leur parviendra dans les jours qui viennent.
Merci Patrick. Donc, je rappelle quand même que si vous voulez envoyer des encouragements sous quelque forme que ce soit à cette campagne en faveur de la libération d'Edouard Limonov, vous pouvez envoyer ça au Libre Journal au nom de Patrick Goffman. S'il vous plaît, mettez Patrick Goffman au bon soin du Libre Journal, 4 Place France Litz, 75-010 Paris. Ça nous évite d'ouvrir l'enveloppe, ce qu'on a été obligé de faire la dernière fois, puisque les enveloppes n'indiquaient pas que c'était pour... la mention Patrick Goffman n'était pas indiquée. Donc, si vous voulez envoyer une pensée, une prière, voire des choses plus trébuchantes, vous pouvez le faire. Patrick Goffman, au bon soin du Libre Journal, 4 Place France Lys, 75-010 Paris. Les enveloppes seront transmises directement.
Pour les mots d'amour, j'oublie toujours, j'y pense toujours au dernier moment, mon adresse
joindre
électronique.
Joindre photo.
Ah oui, joignez photo, c'est raisonnable. Mais donc, notez mon adresse électronique, patrick.goffman, G-O-F-M-A-N, @wanadoo. Wanadoo, c'est une adresse non seulement française, mais d'une entreprise nationale. Hein, on appréciera au passage. Wanadoo@wanadoo.fr.
Merci Patrick.
Merci Serge de Becquetch, merci aux auditeurs.
Et puis j'espère que quand il sera revenu dans un de ces pays, notre camarade Limonov pourra venir dans cette émission, parce que quand même, je voudrais souligner que dans mon émission du mercredi soir, on a milité pour faire libérer un bolchevique en citant à l'appui de cette revendication une phrase de De Gaulle rendant hommage à Jean-Paul Sartre. Alors les gens qui diront après ça que je suis sectaire, je les invite quand même à venir me l'expliquer de vive voix.
Serge, vous m'obligez à prendre la parole sans autorisation pour vous dire que dans la réponse que j'ai envoyée à Moscou hier à Edouard Limonov, qui s'informait des progrès de la campagne, je mentionnais les deux émissions sur TF1 de Patrick Poivre d'Arvor, la dépêche de l'AFP, et j'ajoutais pour terminer, je suis tout heureux, ces articles, l'article du Figaro, etc., sont très espacés, et je suis tout heureux d'être invité à nouveau à faire le point chez Serge de Becquetch, Ruski Tchelaviak.
Merci. Alors, des messages à ce propos. Monsieur Goffman, Ardisson va sûrement s'occuper de ce Français emprisonné, à l'instar du jeune drogué incarcéré en Indonésie, pour lequel il a déjà récolté des dizaines de milliers de francs lors de ses appels répétés à chacune de ses émissions, à bon entendeur, courtoisement. Alors je pense que évidemment Ardisson va se dépêcher d'intervenir pour Limonov. Et puis j'ai déjeuné, nous dit Jean Desla, j'ai déjeuné trois fois avec Limonov et Pierre Gripari chez Dany, rue de la Folie Méricourt. La conversation n'était pas triste. J'imagine qu'effectivement ça devait être quelque chose. Docteur Mera, si vous voulez vous approcher du micro, je vais vous donner la parole, mais mais d'abord, je voudrais me tourner vers Blanche de Préville pour deux minutes, qui doit nous faire une annonce d'exposition. Alors, c'est une exposition qui fait un effet bœuf. C'est amusant, ça.
C'est-à-dire que ça nous permet de rester en Russie, après ce que nous venons d'entendre, tout en nous transportant 4 ou 5 siècles en arrière, puisque le début de la notoriété de la famille Stroganov ou Strogonov débute avec la conquête de la Sibérie au XVIe siècle, grâce à un hetman ou un ataman.
Un ataman.
Oui, qui était le chef Yermak, qui était l'ataman des Cosaques du Don, entre autres. Mais leur première fondation, le départ de leur fortune, sont les salines de Sternichlegov. Non, c'est pas ça.
Prenez votre élan.
C'est un nom très compliqué. Ce sont les salines de Solvitchegodsk. Alors vous dites
Solvitchegodsk.
Solvitchegodsk.
Ça n'existe dans aucune langue connue, ça.
Non,
mais ça fait rien. Bon, comme on n'a pas l'intention d'aller passer nos vacances, c'est pas trop grave.
Alors l'important, c'est que cette famille-là a été illustrée par des grands archéologues, collectionneurs, mécènes, fondateurs d'écoles, fondateurs d'églises, et puis aussi promoteurs de très belles icônes. Et que ces collections ont trouvé leur place dans deux très beaux hôtels, spécialement un palais à Saint-Pétersbourg, au coin de la Moïka, un canal, et de la perspective Nevski. Et depuis, ces collections ont été, après la Révolution, nationalisées et réparties dans les 4 musées principaux de Saint-Pétersbourg. Et dans le cadre des échanges internationaux entre les grandes villes, nous avons la joie d'avoir cette exposition présentée pour 2 mois à l'hôtel Carnavalet, chez Madame de Sévigné, 23 rue de Carnavalet, enfin 23 rue de Sévigné, pardon, du 7 mars au 2 juin. Bon, il se trouve que mon métier étant d'être conférencière, je travaille cette expo et que je la présente, mais même sans moi, on peut aller voir cette exposition qui est superbe et qui met en valeur tout un passé qu'on n'a pas trop l'habitude de rencontrer généralement, parce que ces grandes familles russes ne sont plus en activité, je dirais, et il nous est donné rarement de rencontrer des mécènes de cette qualité très russes, hein, et en même temps aimant beaucoup l'art étranger, puisque les collections de peinture d'Alexandre Strogonov se répartissent entre Italie, Pays-Bas, France, bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier qu'Elisabeth Vigée-Lebrun a trouvé refuge en Russie après la Révolution française. Et il y a 2 ou 3 très beaux portraits d'Elisabeth Vigée-Lebrun dans cette exposition.
Donc, si on veut la visiter avec vous, comment fait-on? Parce que si on veut la visiter, bon, bah, c'est très simple, on va à Carnavalet. Mais si on veut absolument vous suivre,
alors,
ce qui est
si
un plaisir...
Alors, si on veut me suivre... Vous le savez déjà.
C'est un propos de vieux marcheur, mais enfin, je ne sais pas.
Alors, si on veut me suivre, j'ai trois autorisations de visite dans lesquelles j'ai encore de la place. Le 9 avril à 11h30. Le 13 avril à 10h15, c'est une date difficile puisque c'est le samedi de départ en vacances. Enfin, il y a des gens qui ne partent pas en vacances. Et le 17 mai...
J'en connais personnellement un, très bien.
Oui. Et le 17 mai à 13h45.
Et où est-ce qu'on doit s'adresser?
Il faut rentrer au musée Carnavalet et dire je suis visite. Enfin, je demande Madame de Préville, magistrée, moi de toute façon.
Et donc, rappelez-nous s'il vous plaît des dates et les heures.
Les dates et les heures, c'est
le
9 avril à 11h30, c'est le départ, donc il faut arriver 5 minutes avant pour prendre son billet. Le 13 avril à 10h15 et le 17 mai à 13h45. Comme c'est une exposition temporaire, il faut payer l'entrée de l'exposition au musée. Et puis voilà, après ça on s'arrange avec moi. Si on veut me joindre, moi, pour savoir d'autres choses différentes, d'autres renseignements, il faut me téléphoner au 01 42 16 98 73. Voilà.
01 42 16 98 73.
Voilà.
01 42 16 98 73. Alors, à titre personnel, je peux dire que le propos que vient de dire Blanche de Préville est quelque chose de sérieux, car Blanche est une érudite, mais c'est aussi une des femmes les plus gaies que je connaisse, et je suis absolument certain que... Donc, gay, me regarde pas comme ça, Sander, c'est tout de suite, il a... On voit que... Gay joyeuse, je veux dire. Je suis certain que même dans une exposition très sérieuse, vous allez passer de très bons moments, et je vous conseille vraiment de prendre contact donc avec Blanche de Préville au 01 42 16 98 73 pour essayer de voir cette exposition qui a l'air merveilleuse d'ailleurs en sa compagnie.
Merci beaucoup, Serge.
À bientôt. Docteur Mira, vous venez ici nous parler d'un symposium. Je vous donne la parole avant de donner la parole à Alain Sanders, dont je voudrais bien qu'il vienne rejoindre son poste dans le studio. Non pas une exposition, mais une conférence, un symposium consacré au Saint-Suaire, c'est-à-dire au linceul de Turin, organisé par le Ciel, dont vous êtes un des dirigeants.
Oui, je vous remercie, monsieur Becquage, d'ouvrir votre antenne au Ciel, très précisément.
Chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais avec plaisir. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais vous avez vu que...
Non, c'est sans importance par rapport à celle du sujet. Le Ciel est donc le Centre international d'études du linceul de Turin, qui est une association qui a été créée en 1989 par un ingénieur chimiste, André von Kovenberg, stupéfait par les résultats de la datation au carbone 14 qui venait d'être publiée avec un point d'interrogation au tableau noir, non pas un point d'interrogation, un point d'exclamation triomphale au tableau noir. Bon. Alors, Von Kovenberg a créé cette association qui a réuni des scientifiques du monde entier. Et depuis, le Ciel organise des symposiums. Il en a organisé un à Paris en 89, à l'occasion de cette datation stupéfiante, qui a particulièrement travaillé sur le carbone 14 et qui en a conclu que c'était une datation qui était entachée d'un grand nombre d'erreurs et d'imperfections, sur lequel je ne veux pas polémiquer et m'entendre, mais enfin...
Il y a eu des textes qui ont été publiés, les travaux du symposium ont été publiés...
Bien entendu.
Par d'ailleurs notre... je sais pas si je veux dire notre ami, parce que c'est compromettant, par François-Xavier de Guibert.
C'est ça, oui.
Publié un très bel album.
Oui, que j'ai dans ma serviette à côté.
Qui est remarquable. Ouais. Et donc maintenant, c'est un autre sujet qui va être traité. Quel est le
Alors,
le sujet?
Cette fois-ci, nous allons traiter, comme pratiquement à chaque fois, parce que c'est un sujet qui est inépuisable, inépuisé et essentiel, de la nature de formation de l'image, sur lequel butent les scientifiques du monde entier depuis 100 ans. Tout est là. La problématique du linceul de Turin, c'est la nature et la manière dont s'est formée cette image, que personne ne peut expliquer. Et puis, nous allons ouvrir également un chapitre que nous estimons très important au Fielt sur l'historique, sur l'histoire de ce linceul que l'on connaît bien depuis 1350, date à laquelle il apparaît à Liré, tout près de chez moi, dans l'apanage de Geoffroy de Charny. Mais il y a indiscutablement un trou entre 1204, je crois, le sac de Constantinople, et Liré. Alors, nous nous efforcerons à l'avenir de travailler beaucoup sur ce sujet et nous amorçons la pompe à notre prochain symposium.
Il y a un bouquin qui va sortir prochainement, enfin, il y a un bouquin qui sort là, mais avec un autre texte qui va sortir très prochainement à propos des écritures. Alors, en l'occurrence, des écritures fantômes, là, celui auquel je fais allusion, qui est un travail de monsieur...
André Marion.
Non, ça, André Marion, c'est le gros bouquin. Le travail dont je parle, c'est monsieur, j'ai un trou, ça y est, monsieur Roy. Non, pas Roy. Enfin, peu importe, ça me reviendra. Et donc, il a fait un travail dans lequel il démontre, lui, que ces écritures fantômes n'ont jamais existé en réalité. Est-ce que c'est une question que vous allez évoquer au cours du symposium?
Non. Monsieur André Marion devait effectivement participer à ce symposium. Il est empêché, il ne peut pas le faire. Il continue de travailler sur le sujet. Il a des arguments qui semblent solidement établis, c'est un ingénieur de tout premier plan, mais nous sommes toujours très intéressés d'une façon générale par la contradiction. Nous recherchons la contradiction, car...
C'est ça qui fait
avancer les choses, et malheureusement, les contradicteurs... ne sont pas des gens, je dois le dire, sérieux. Ils avancent des hypothèses, ils avancent des histoires romancées, ce fameux chevalier fou, templier fou qui aurait flagellé dans une cave, etc., etc. Vous voyez le genre de...
C'est Elsa Popine.
Il y a quelques années, j'ai participé à une émission de télévision, il devait y avoir une contradictrice qui devait me porter Elle a démissionné la veille. J'ai bien regretté, car nous voulons avoir des contradicteurs, et c'est de la contradiction que viendra la lumière.
C'est curieux, parce qu'en général, ce genre de contradiction, qu'on pourrait appeler contradiction négationniste, c'est pas très recherché.
Vous savez, c'est très difficile de contredire un fait. Vous savez, on tourne toujours sur le même circuit, le fait engendre l'idée, qui impose l'expérience, qui vérifie le fait. Nous en sommes dans ce circuit extrêmement scientifique et nous ne voulons pas en sortir. Dès qu'on nous parle d'hypothèses, ça ne nous intéresse plus. Nous voulons des faits expérimentés et vérifiables.
Mais pourtant, puisque c'est un faux, ça devrait être assez facile à reproduire, puisque c'est un faux du XIIIe siècle.
Oui.
Donc, on a quand même développé quelques moyens depuis.
Absolument.
Alors, on pourrait demander aux partisans du faux, non pas même de refaire la même chose avec les moyens du XIIIe siècle, mais de refaire la même chose avec les moyens actuels. Ça serait déjà... intéressant s'ils y arrivaient.
Ça devrait être facile. Ça devrait être facile. Malheureusement,
fait quelques progrès.
Il ne se bouscule pas.
Non, c'est curieux.
Il ne se bouscule pas.
Ça, il se tient quand et où ce symposium, mais quelles sont les conditions d'accès?
Alors, le symposium est ouvert à tout le monde, bien entendu, mais il est tout de même d'un niveau très scientifique.
Oui, c'est scientifique, c'est pas...
Ce ne sera pas grand public. C'est un niveau très scientifique. Les gens traversent l'Atlantique ou les Alpes pour venir exposer leurs travaux. Ce ne sont pas des conférences grand public. Néanmoins, tout le monde est autorisé à y entrer. Il y a un numéro de téléphone qui permet de s'informer et éventuellement de s'inscrire. Je vous le donne maintenant. C'est le 01 45 48 67 15. Il y aura un répondeur, mais toutes les informations sont données à ce numéro. C'est le 25 et le 26 avril au centre Chaillot-Galliera.
Je vais vous demander, selon une tradition maintenant bien installée, de répéter le numéro de téléphone.
Bien sûr.
Et les dates et le lieu.
Numéro de téléphone d'information pour le Centre international d'études du linceul de Turin, 01 45 48 67 15, à propos du quatrième symposium qui se tiendra le 25 et le 26 avril prochain au centre Chaillot-Galliera.
Merci docteur Mira. On rappellera bien évidemment ce symposium qui est extrêmement intéressant pour de nombreuses raisons. Et puis ce que je vous proposerais peut-être c'est de venir après le symposium
pour faire un bilan.
Un bilan, voilà.
Oui, avec plaisir. Docteur. Merci monsieur.
Voilà, et bien mon cher Guy Leideux, vous avez la parole avec mon excellent camarade Alain Chardin, ce qui est bien rare à ce micro, mon cher Alain.
Je ne suis pas invité.
Tu, 67 fois, je t'ai dit, tu viens quand tu veux. Tu es chez toi.
Oui, enfin, tu sais comment je suis.
Tu as dit
une violette.
C'est vrai. Oh. Alors, je dois reconnaître que ce n'est pas encombrant, ce homme-là.
Bon, ben, nous allons parler ce soir de livres pour la jeunesse, puisqu'Alain Sanders a écrit cet excellent livre qui s'appelle 50 livres et plus que vos enfants doivent avoir lu. Alain, on se tutoie dans la vie, donc on se tutoie au micro, pourquoi pas. Alain, ce sont des articles que tu as publiés l'an présent, d'abord.
Oui, en partie, pas tous, mais oui. À l'origine, c'était ça, oui.
Et tu avais déjà une idée de réunir ces articles?
Oui, j'avais une idée, j'explique un peu en préface, c'est que régulièrement, des gens, il y a quelques années de ça, dont même Lynn Renaud et Serge doivent se rappeler, on avait un projet de faire un périodique pour enfants avec Serge.
Oui.
Bon, il y a eu l'expérience de Présent Jeunesse qui n'a pas continué, mais on avait l'idée de faire quelque chose parce qu'il y a une demande.
Ah,
et il n'y a rien. Oui. Pas dire qu'il y a quelque chose, il n'y a rien. Donc, régulièrement, il y avait des grands-mères ou des grands-pères ou des parents qui me disaient « Ah, vous parlez souvent de livres, vous faites allusion au capitaine Manred, mais on ne sait pas trop qui c'est. » Ou « Mais je me rappelle, quand j'étais petit, je lisais ça, vous ne pouvez pas me faire une liste ?» Alors, je me suis coltiné comme ça une cinquantaine de listes que je faisais, que je photocopiais par la suite, etc. Et je me suis dit « Pourquoi ne pas réunir ces livres que je liste, que je donne, et à chaque fois en donnant une petite approche du livre, les anecdotes autour, donner envie de le lire. Ça n'est pas un livre pour les enfants, c'est un livre pour les parents.
C'est un livre aussi qui fait référence aux grands classiques de la littérature jeunesse, en principe. C'est
oui,
pas des livres
sûr.
Actuels.
Non, ce ne sont pas des livres actuels.
C'est des livres qui appartiennent au patrimoine.
Je pense qu'il y a un fond, oui. Il y a un fond littéraire commun qui a formé des générations d'enfants. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et nos arrière-grands-parents pour certains. Et je pense que c'est des livres qui restent d'une actualité comme les grands chefs-d'œuvre. Les grands chefs-d'œuvre sont intemporels,
oui,
ils ne sont pas datés.
Ce sont des chefs-d'œuvre.
Ce
oui.
sont des livres qui ne sont pas datés.
Tout à fait. Alors mais, le choix de ces titres.
Bah, le choix, comme toute anthologie, c'est un choix.
Oui.
Ça s'appelle 50 livres et plus que vos enfants doivent avoir lu. Et Serge, en rendant compte du livre, rappelle quelques livres que lui aurait mis et qui n'y sont pas.
Bien sûr, moi aussi,
mais,
j'aurais pu, bien
voilà,
sûr, rajouter.
Par définition, c'est ceux qui me sont venus d'abord à l'esprit, mais je ne te cache pas que je travaille sur un second tome qui s'appelle « Et encore 50 livres et plus que vos enfants doivent avoir lu ».
Voilà. Et en fait, il est en train de rééditer le catalogue de la Bibliothèque nationale.
Oui. Non, d'autant que je lance un appel aux gens comme toi, Serge, aux gens comme toi, Guy, c'est que si vous avez le goût, en 3-4 feuillets, de présenter un livre qui vous a marqué et de l'insérer dans ce prochain tome, c'est avec plaisir.
Et moi, c'est tout drôle, c'est La Maison des Petits Bonheurs.
Oui, c'est un livre que je ne connais pas, par exemple, vois-tu.
Pure merveille.
Mais voilà.
200 rééditions, je sais pas.
Moi, oui, je le connais pas. Non.
Oui, je connais le titre, mais je n'ai jamais lu.
L'histoire d'une petite fille qui, dont le père s'en va pour je sais plus quoi, pour des obsèques, je crois, et c'est où les parents s'en vont, et c'est la tante qui vient garder la famille. La grande sœur, la petite sœur, etc. Et donc, c'est des enfants qui découvrent l'autorité avonculaire. C'est remarquable. Ça a marqué toute ma vie, ce livre.
Alors ta méthode de travail ta méthode de présentation plutôt de ces ouvrages.
Oh, ma méthode
en quelques pages.
Ma méthode de présentation, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver déjà comme illustration les illustrations non pas d'époque, mais celles des bibliothèques qui ont soutenu ces livres-là, parce qu'il y avait des illustrations qui étaient généralement très belles et très attrayantes déjà. On avait envie d'ouvrir le livre. Et puis pour le reste, eh bien, c'est un petit peu les livres qui m'ont marqué, qui ont été importants.
Alors, tu as parlé
jusqu'à quel âge ?
Les livres, là ?
Ouais.
Oh, je pense... Je...
Non, mais toi, tu...
Les livres, je continue.
Oui, je sais que tu continues à lire.
Je continue à les lire. Je relis... bon, je parlais du capitaine Menred tout à l'heure, je continue à le relire. Henri et ses contes, oui. Ses contes, je le relis parce que c'est très drôle.
Les trois mousquetaires une fois par an, c'est obligatoire.
Oui, je le relis une fois par an.
Obligatoire,
oui,
c'est bienvenue au club.
Je relis l'ensemble même régulièrement. Voilà, c'est des livres. Mais je me suis aperçu par exemple qu'un livre c'est Les Simples Contes des Collines de Kipling, que j'ai lu et relu. Je la lisais dans la petite collection Nelson, qui était superbe. Ah, oui. C'est un livre que j'ai gardé, que je relis. Je me souviens l'avoir lu à 9 ans. Mais je ne suis plus sûr qu'un enfant pourrait le lire à 9 ans. Je me rappelle l'histoire, j'avais cherché ce qu'était un rickshaw.
Ouais.
Je me rappelle les histoires de ces deux soldats anglais qui allaient d'ailleurs. On nous faisait lire ça à 9 ans. Il y avait des petites histoires quand même. Ils faisaient des dégagements en ville qui n'étaient pas tristes. Il y avait des choses comme ça. Bien, on nous le faisait lire.
C'était même imprimé tout petit.
L'histoire de Nelson, c'était l'ancêtre du livre de poche. Ouais. Sauf que ça fait une belle couverture.
C'était beau,
cartonnée. Et une jaquette superbe. Oui, bien sûr.
Avec l'histoire du chat qui s'en va tout seul.
Voilà. Ah oui.
Ouais. L'histoire du chat maltais, une partie de polo racontée par un cheval, qui a des choses superbes.
Qui a donné lieu à une bande dessinée, si je ne m'abuse.
Oui, n'est-ce pas. Alors, tu parlais des illustrateurs et des jaquettes, des couvertures. Il y a donc dans cet ouvrage des reproductions assez superbes de couvertures qui sont pratiquement d'époque, parce qu'il y a des couvertures de la bibliothèque verte.
Il ne faut pas non plus tromper les gens. Oui. Les reproductions sont sympathiques, elles ne sont pas superbes.
Non, mais enfin,
parce qu'elles ne sont pas en
couleur. Elles rappellent dans la mémoire.
C'est pas. Mais je vois les mines du roi Salomon.
Oui.
Mais j'aurais préféré les faire en couleur. Mais voilà.
Ah bah oui,
mais elles sont pas superbes. Hein. Tu es gentil de dire ça.
Si. Non, mais elles évoquent bien.
Elles sont superbes dans la mémoire parce qu'on les revoit.
Ouais,
c'est ça. Voilà, c'est ça.
Quand on voit. L'autre jour, j'ai vu je vais y arriver. Le capitaine Dorakine.
Voilà.
Le général Dorakine. Dans l'édition, oui, le général Dorakine. Dans l'édition, la vieille édition avec la couverture en couleur, ces dessins merveilleux de la même série d'ailleurs. La couverture porte une émotion incroyable. Retrouver même en noir et blanc.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Oui. C'est évocateur.
Oui, et puis il y a aussi cette collection qui était illustrée par Pierre Nourry, là, que tu reproduis chez Flammarion.
Oui. Alors, c'est superbe. Cette collection où il y a eu un Robinson Crusoe, un Robin des Bois, un Ivanhoé, les Robinson Suisses, etc. J'ai pas la collection complète, mais j'en ai beaucoup. C'est une très belle collection, bon marché, mais très bien faite.
Oui, bon, on la trouve facilement dans les brocantes.
Oui.
Il y a un auditeur qui dit je suis obligé de contredire M. Sanders car Mme Brassier invite assez régulièrement des dames, mères de famille ou grand-mères qui organisent des lectures collectives de livres pour les enfants.
Oui.
Et une des organisations principales est à Versailles, alors Association catholique de la famille. Et nous disent c'est à peu près.
J'ai jamais dit que.
Mais ça fait rien. On a quand même le droit de te contredire, si tu n'as pas dit quelque chose.
Oui, non, mais c'est très bien. Bon. Oui, d'accord.
Non, mais c'est justement pour rebondir, comme on dit. Hein,
non, mais moi j'évoquais le manque d'un périodique. D'un périodique.
Oui.
D'un petit mensuel, d'un petit hebdomadaire de notre sensibilité.
Et puis aussi, un manque d'informations dans les médias.
Non, puisqu'on vient de nous dire qu'il y avait un truc...
Dans les médias, on ne parle pas beaucoup de littérature pour enfants. Hein. Dans les médias radio et télévisés, il n'y a pratiquement rien. Moi, je me bats depuis des années pour qu'il y ait des émissions, justement.
Tu ne vas pas faire comme les gens qui engueulent le curé, qui engueulent les gens qui viennent à la messe. Tu ne vas pas engueuler à l'émission de Serge où il y a
créneau... Justement. Non, mais on aimerait qu'il y ait une vraie émission consacrée à la littérature pour enfants, au spectacle pour enfants, au disque pour enfants, aux chansons pour enfants.
Dis-moi, on fait une fausse là. On fait une fausse émission là. Chiche.
Non, mais en fait, ce qu'ils pensent, les deux, c'est qu'un jour, il va me piquer mon émission.
Non,
je te vois pas venir.
Non, moi j'ai mon petit créneau.
Ne fais pas l'enfant.
J'ai pas du tout le créneau de Serge. Oui, on va parler quand même de quelques auteurs et de quelques titres. Par exemple, ce qui pourrait surprendre. Tu parles de Molière, de Corneille, de Marcel Pagnol.
Oui.
Ça pourrait être surprenant, non?
Molière, surprenant, non.
Oui, mais quand on parle littérature pour enfants ou jeunesse...
Corneille, c'est la littérature héroïque.
Bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Jadis, on étudiait Corneille en sixième.
C'est vrai,
Les
pièces, oui, mais il y a le côté pédagogique, fragiles, là. Fragiles. C'est pas le côté
discours. Et Marcel Pagnol, mais la trilogie de... je connais rien de plus beau. Comme Piété filiale, comme Amour filiale.
C'est un livre pour enfants, ça, c'est vraiment un livre pour enfants.
Le gosse qui sort avec les deux Bartavel, qui sont la gloire de son père. Je connais rien de... Pas de plus beau livre,
je
peut-être,
brandis dans
d'amour,
le soleil.
D'amour paternel.
C'est vrai.
L'amour à l'égard de son père. L'amour filial.
Tu parles aussi, bien sûr, de grands classiques comme...
Et d'amour enfantine, parce que la passion que le petit garçon a pour la
fille du poète.
La fille du poète alcoolique, c'est extraordinaire. C'est un roman de chevalerie. C'est d'une beauté.
Et qu'il l'amène à faire des trucs invraisemblables sous les yeux de son petit frère qui n'en revient pas.
Qui est scandalisé.
Elle lui fait manger
des limaces.
Des limaces,
oui. Et le petit frère est scandalisé par cet avilissement devant la femme qui, du coup, incarne pour lui.
Le très beau petit garçon le petit garçon des papillons.
Ah, Moon des Parpaillons.
Moon des Parpaillons, qui va mourir à la guerre de 14.
Alors, en parlant de chevalerie, il y a les chevaliers de la table ronde, bien sûr.
Oui, qui n'est pas dans ce recueil-là, mais qui sera dans...
Le roman de Renard, c'est incontournable.
Il y a le roman de Renard,
bien sûr. Et puis les contes des frères Grimm, Hans Christian Andersen. Oui.
Alors là, il faut quand même dire un mot sur les contes de Grimm. Les contes d'Andersen, c'est différent. Mais les contes de Grimm ou les contes de Perrault, moi, je vous conseille de les lire dans l'édition authentique.
Oui. Parce que... Ça n'est pas pour les enfants.
Quand on voit le déchaînement... Dans nos milieux d'ailleurs, notamment dans certains milieux de la tradition qui a provoqué
Harry Potter
et qu'on lit Blanche-Neige,
qu'on lit Podane.
Podane,
l'histoire d'un inceste,
ou La Belle au Bois Dormant. Il faut quand même penser que La Belle au Bois Dormant, la belle-mère de La Belle au Bois Dormant, parce que on arrête toujours le conte au moment de la résurrection, mais enfin du réveil. Après, il y a la suite qui est beaucoup plus intéressante, où elle épouse le prince charmant, elle a deux enfants qui s'appellent Aube et
Aurore et Jour.
La belle-mère veut les bouffer.
Oui,
c'est quand même. Oui. Harry Potter, il est un peu enterré là.
Ou même le petit chaperon rouge. Histoire d'enfants qui sont perdus volontairement par leurs parents et laissés entre les mains de l'homme.
Le petit chaperon rouge, quand le loup veut croquer le petit chaperon rouge, c'est une autre signification.
Il y a une lecture seconde des contes pour enfants. Mais
donc faites-leur plutôt lire Harry Potter à vos enfants. Ça y est, boum, le standard explosé.
Faites-leur lire aussi, par exemple, les ouvrages de la baronne Orczy, Le Mouron Rouge.
Ah, Le Mouron Rouge.
Ça, c'est mon petit préféré.
Superbe. Et si vous pouvez trouver les films en vidéo de la série anglaise, qui est superbe, là, pour ceux qui n'aiment pas la Révolution, on se régale.
Et on attend toujours une bande dessinée sur Le Mouron Rouge.
Oui.
Une adaptation, ça serait bien.
Oui.
Mais ça viendra.
Oui, ça viendra.
Ça viendra.
Je pense que tu as une idée derrière.
Oui, absolument, j'ai une idée derrière.
Et le petit duc, alors, est-ce que quelqu'un va parler du petit duc?
Si, il faudra en parler un jour.
Mais le petit duc, c'est de la bande dessinée.
Oui, c'est de la bande dessinée.
C'est quand même une des plus belles bandes dessinées.
Ça a été réédité il y a une douzaine, treizaine d'années.
Oui. Mais on invitera Gérard Thomassian un jour, il nous parlera de tout ça.
C'est bon, c'est bon. Le petit duc,
ça paraissait pour les auditeurs dans Kiwi. C'était à suivre, ça n'en finissait plus.
Ah oui, mais non, mais il y avait des complots de palais extraordinaires. C'était les Balkans.
Et c'était scénarisé par Marcel Navarro, qui est le charlier des petits formats, on peut le dire. Là aussi, les spécialistes n'en parlent pas beaucoup.
Et dessiné par
Rappelle-moi le nom.
De Vita,
oui. Qui a disparu.
Qui était un Italien.
Oui. Comme son nom l'indique.
Oui, enfin, oui.
Pas, plus, maintenant, Vita. Ça ne veut plus dire grand-chose. Ouais.
Alors, tu parles bien sûr des romans de Jules Verne, ça aussi.
Oui, quelques-uns. Je mets tout Jules Verne ou presque. Et puis j'en cite un ou deux.
Et lesquels tu ne recommandes pas?
Il y en a que je recommande pas parce qu'ils sont devenus impossibles à lire. Ouais. Et c'est vrai. Bon, par exemple, le dernier des Mohicans, ouais. Je le mets, mais je défie quelqu'un, même un adulte aujourd'hui, de lire les digressions qui étaient intéressantes à l'époque.
Je pensais à ça à propos de Man Red.
En édition abrégée.
J'ai essayé de lire Man Red il n'y a pas très longtemps, c'est quand même assez indigeste.
Il y a des pages dans Man Red qui est allé faire la guerre du Mexique, il y a 25 pages sur les différentes sortes d'agaves.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Bon, c'est vrai. Il y a des éditions.
Chez Jules Verne aussi, 20 milieux sur les mers, il y a des pages de description des poissons.
Voilà. Mais il faut se remettre dans l'esprit de l'époque où on n'avait pas l'image, où on n'avait pas le commandant Cousteau, on n'avait pas Haroun Taziev, on descendait pas dans les volcans et tout était magique et tout était merveilleux. Mais ce que je crois, c'est qu'aucun film au monde, aucun téléfilm, aucune télévision ne remplacera les Indes anglaises que j'ai recréées dans mon esprit en lisant Phileas Fogg.
Oui, bien sûr.
Voilà, jamais. Même le grand film hollywoodien qui est pas trop mal, jamais je n'ai retrouvé mes images.
Le seul qui soit arrivé à créer des images qui correspondent à mon imaginaire, c'est Le Marié.
Oui.
Dans l'édition de Le Tailleur du Tour du Monde en 80 jours, les dessins de Le Marié, c'est exactement ce que je rêvais. Mais c'est moi, il y a d'autres qui peuvent voir les choses différemment.
Et ça, c'est la magie. Bon, je cite souvent l'anecdote, l'époque où ils ont fait des films, ils ont adapté Tintin au cinéma, la Toison.
Il y a eu Les Oranges Bleues
et la Toison d'Or. Et je me souviens que Hergé avait reçu une lettre d'un petit garçon lui disant: écoutez, c'est formidable, j'ai bien retrouvé les personnages, mais il y a un truc qui va pas du tout, c'est pas du tout la voix de Tintin.
bien sûr.
Voilà,
c'est très drôle. Et c'est Tintin avec des comédiens, moi je les trouve bien meilleurs que les dessins animés.
Oui, c'est beaucoup plus l'esprit,
et ce qui était drôle, c'est que l'acteur qui, je crois, s'appelait
Jean-Pierre Talbot,
n'était absolument pas acteur, parce que je crois qu'il était maître nageur.
Oui, c'est ça. Mais il faisait des cascades assez spectaculaires, des plongeons de rochers. Il s'accrochait à un bateau, il s'accrochait à des... Voilà. C'était l'esprit Tintin, c'était bien.
Voilà. J'ai envie de poser la question, normalement, qui viendra à la fin, mais comme je ne sais pas quand on va intervenir à la fin, si tu en emportais un seul bouquin, dans 5 minutes, la fin, voilà, un seul bouquin sur une île déserte ou ailleurs, ce serait lequel?
Un seul bouquin, je crois que ce serait Les Trois Mousquetaires.
Ce serait Les Trois Mousquetaires et Pickwick. Parce qu'un seul bouquin, c'est toujours deux.
Et autant on emporte le vent.
Oui, mais dans Les Trois Mousquetaires, il y a autant on emporte le vent.
Oui. Moi, ça serait
les cavaliers sudistes et les mousquetaires. C'est le même esprit.
Et puisqu'on parlait de bande dessinée, tu parles de Christophe quand même.
Oui, je parle. Ah, mais parce que la famille Fenouillard, ou le sapeur camembert, la famille Fenouillard, c'est formidable.
Bien sûr, c'est formidable.
Il y a du Phileas Fogg dans leur. Il y a un tour du monde en 80 jours. Et j'ai essayé de redonner une dignité. J'ai essayé de redonner une dignité à deux personnages dont on se moque parfois. C'est la famille Fenouillard et Tartarin de Tarascon.
Parce que ce sont
deux personnages. Fenouillard, c'est le bourgeois un peu replet, Tartarin aussi, ils ne partiront jamais. Eh bien, ils partent un jour. Oui. Et ils vivent des aventures et ils vont jusqu'au bout. Tartarin de Tarascon, c'est l'Algérie
magnifique,
française.
Magnifique, c'est
un beau. Toute l'Algérie française. Lisez Tartarin de Tarascon, vous comprendrez l'Algérie française.
Voilà, eh bien, merci Guy.
Il faudrait peut-être ajouter que la couverture est signée Char.
Oui,
Que le livre est en vente chez Godefroy de Bouillon.
Voilà. Chez Godefroy de Bouillon.
À 25 euros.
Dans toutes les bonnes librairies.
Voilà.
Merci Alain.
Merci à toi.
J'espère que tu reviendras nous voir bientôt. Merci. À vous Victoria.
Dernière nouvelle du pays. À Vénissieux, quartier des Minguettes, s'est constitué un comité pour la libération des talibans français arrêtés par les troupes US en Afghanistan. À Strasbourg, dimanche, la plus importante manifestation pro-palestinienne était organisée par les musulmans de France. On vous répond, la cathédrale de Versailles, cathédrale Saint-Louis, existe bien toujours. Elle fêtera son bicentenaire dimanche prochain.
Je ne savais pas si c'était toujours la cathédrale Saint-Louis.
Et justement, elle est en face de Armes et Racines, où le livre de Monsieur Fouquet peut se trouver. Alors, livre qui s'appelle « J'ai hâte », qui vaut
13,50 € et qui est édité chez Rémi Perrin.
Tu l'as lu, Alain, ça.
Et qu'on trouve.
Le bouquin de Fouquet.
Et qu'on trouve dans les librairies du Ken France Libre et les librairies nationales. Et l'auteur dédicacera son ouvrage le jeudi 4 avril à partir de 14h30 à la librairie du Ken, métro École Militaire. Est-ce que monsieur Fouquet viendra dédicacer son livre à la fête de Radio Courtoisie?
Il sera invité, bien sûr.
Référence de la musique russe passée à la coupure, chant traditionnel d'Ukraine par le chœur d'enfants ukrainiens d'Odessa, référence ethnique B6780. L'agression d'Olivier Pichon, on ne peut
oui,
pas.
Oui, je voulais en parler avec Bruno Maigret tout à l'heure.
Il fait son émission demain soir, il donnera donc probablement plus de détails que nous. Et il y recevra Bruno Maigret demain soir à 18h. Donc. Bruno Maigret, qui sera aussi invité vendredi 5 avril à RTL à 7h50 et dimanche 7 avril à TF1 à 20h20. Le docteur Dor appelle à se retrouver à 14h30, 177 rue de Versailles, au Chesnay, le samedi 6 avril. Samedi 6 avril aussi, manifestation au parc Monceau à 11h pour soutenir une famille dont le fils a été agressé dans le parc. Entrée avenue Foch. Rencontre culturelle de Paul Biller, samedi 13 avril, Palais Royal, le Palais Royal. Rendez-vous à 15h, 4 Galerie Montpensier, métro Palais Royal. Une exposition à la galerie Philippe M, 38 rue de Penthièvre à Paris 8e, est consacrée à Lucien, Jeanne et Paul Simon, une famille d'artistes.
Superbe exposition.
Qui évoque la douceur de vivre en famille et en harmonie au début du XXe siècle. Musée Carnavalet, exposition, on en a parlé tout à l'heure, je ne me rappelle pas. Voudrait avoir des nouvelles du commandant Bunel.
J'ai eu une lettre du commandant Bunel. Il va aussi bien qu'on peut aller quand on est dans sa situation. Il attend une décision de remise en liberté. Il a déposé un dossier pour être mis en liberté et il espère une décision favorable. J'ai également reçu une lettre de Michel Lajoie qui salue les auditeurs de Radio Courtoisie qui lui ont écrit. On en parlera plus longuement dans une prochaine émission.
Et enfin, le Libre Journal, le dernier est sorti. Je lis le sommaire. Présidentiel, le zappeur veut faire bachoter les candidats. Chirac fait sa cuisine électorale au beurre. La Société Générale.
Pétard, des frères Pétard.
Voilà, la Société Générale finance les exportations américaines. Monchot, héroïque, n'hésite pas à dire du mal d'Hitler. Et pour changer, un joli conte de Pâques.
Oui, le zappeur, il faut dire que c'est un papier de François Brignot qui a une idée de génie. Pour remplacer les parrainages, c'est de faire passer une espèce d'examen télévisé aux candidats à la présidentielle. Voilà, c'est tout.
C'était tout à l'heure, j'ai dit avenue Foch, c'est avenue Hoche. Bon.
Ah oui, c'est pas tout à fait le même.
Merci. Mais vous n'avez pas donné l'adresse. 4 Place France Lys, Paris 10e. Ceux qui ne sont pas encore abonnés peuvent envoyer la valeur d'un carnet de timbres et ils recevront un exemplaire.
Merci Victoria pour cette publicité gratuite. Merci à tous de nous avoir écoutés, si vous nous avez écoutés jusque-là. Merci à Franck d'avoir dirigé cette émission avec la maestria qu'on lui connaît. C'est pas toujours facile parce que j'avais encore oublié une invitée. Je lui en présente mes excuses. Et ben, je crois à la semaine prochaine si Dieu veut. Et d'ici là, que Dieu nous garde, bien sûr.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur.